Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. O2 Radio.
Non, c'est pas vrai.
Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule.
Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 6, mesdames, messieurs. Wouh! Alors attention, il faut que je vous raconte tout, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, je suis en train de tout casser. Que se passe-t-il? Je monte un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu nous as un peu cassé le crâne dès le début là.
C'est vrai. Alors, hey, on dit tout aux auditeurs comme d'habitude. On est en direct. Hein, on est parti jusqu'à 21h, mesdames, messieurs. On va parler jeux vidéo comme d'habitude, bien évidemment. Et on a toujours la table de mixage de Vercingétorix. Hein. On ne le répétera jamais assez. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur de la régie a été reboot. Et vu qu'on communique vachement connecting people, vu qu'on est une radio, personne l'a dit. Et vu que ça fait un petit moment que tout marche bien avec dans la radio, je me dis, plus ça va, plus je viens tard en fait. Et malheureusement, je suis arrivé peut-être un poil trop tard pour tout réinstaller. Et on a... il a fallu récupérer tous les logins, tous les trucs. Tu sais que t'as mis il y a 6 ans, quand t'étais un petit peu fleur bleue à l'époque, et que ton mot de passe c'était « Oh, je t'aime Thérèse ». Et puis que finalement, la meuf, tu l'as plaqué, et puis depuis, t'as avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, on en est là. Bref, allez, tout marche bien avec, mesdames, messieurs. On est parti pour 2 heures de jeux vidéo et de bonne humeur, comme chaque semaine. On enlève sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Ça n'a pas été simple. Dites-moi, on n'est pas sur la bonne. Ça sort. Attends, ça sature même sur la radio, on me dit. Alors là, il y a un gros problème navette. C'est peut-être le master. Dites-moi, on est en live aussi. Sur la bande FM, vous m'envoyez des textos. Voilà, il y a tout qui a été. Mais tu sais, tu pars une semaine, t'as l'impression qu'ils ont repeint tout en rose et tout. C'est un truc de déglingo.
En fait, maintenant, la voix du geek, c'est un quart d'heure de mise au point sur la table, la régie, pour avant qu'on lance l'émission.
Mais le problème, c'est qu'avec cette table-là, en fait, il y a pas de,
il y a pas de pré-écoute avant. Ouais.
Donc, je peux pas faire comme d'habitude. Tout ça, c'est des petites ficelles du métier. Tu vois que vous entendez pas chez vous, mais c'est assez compliqué. Alors, merde, même le micro il se barre en couille. Non mais sans déconner, je sens que ça va être une émission exceptionnelle ce soir. Bref, bon petit programme, comme d'habitude on va parler jeux vidéo. On va se faire toutes les news jeux vidéo de la semaine évidemment. On va écouter du bon son, c'est une copine qui a choisi le morceau qui s'appelle Camille. Voilà. C'est les colocs avec le pudding à l'arsenic. On s'écoute ça, on va parler un peu après 20h avec Étienne, mesdames, messieurs, de Shiro Game, qui est venu nous parler du jeu Nosegard, mesdames, messieurs.
Bonsoir.
Ouais, qui est sorti tout fraîchement. On va faire un petit tour de table. C'est juste le temps que tous les viewers et tous les messages arrivent pour qu'ils règlent un petit peu, qu'ils me disent ce que ça rend de l'autre côté. Parce que nous, on s'entend pas, on ne sait pas. Donc voilà, on va parler de Nosegard, évidemment. Et on va parler surtout de jeux vidéo, mais vu d'un studio indépendant, en fait. Parce qu'on se posait beaucoup de questions là-dessus, surtout sur Steam, entre autres, vu que ton jeu est sorti sur cette plateforme, sur les rémunérations, tout ça. Je pense qu'il y a moyen d'apprendre des choses, et surtout avec PM, je vais vous le présenter dans un instant, on parlait, tu sais, du marché d'occasion et comment dans un studio indépendant, même si le jeu n'est pas sorti en boîte, comment on voit ça? Parce que tu vois, il y a peut-être un manque à gagner. Bon, a priori, ça a pas l'air de trop le chiffonner plus que ça.
On en reviendra dessus, ouais.
Ouais, carrément. Bah, alors,
apparemment, la Lamborghini qui est garée devant avec écrit Étienne sur la plaque, pas trop de le manque à gagner. Hein,
le jeu a bien cartonné, apparemment.
Apparemment, ça s'est bien vendu. Hein.
Yes. Bon, alors, ce qui va se passer ce soir, je vous le dis direct, hein, on est en live, donc là, attention, c'est sans filet. Donc, vu que c'est l'ancienne table, il n'y a pas assez de micro. C'est un truc de ouf. Je me dis, bon, Mogmo, il est au Japon. Wayne, il me dit qu'il peut pas venir parce qu'il est en train de vendre une maison à 8 milliards de dollars.
Chut, j'ai garé l'hélicoptère à côté de la Lamborghini, ça va se voir après.
Non mais les mecs ils brassent du pognon quoi. Il y a que moi qui bosse et moi qui prends pas une thune dans cette émission. C'est un truc de fou. Donc on va faire comme on peut. On doit avoir un random micro dans le studio.
Apparemment le son est horrible. Hein.
C'est vrai?
Ouais, bah, c'est ce qu'ils mettent sur le chat. Hein.
Alors, et le son il est horrible sur le stream ou...
Je pense que c'est parce que t'as pas configuré XSplit en fait.
Bah, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps en fait.
Oui,
mesdames,
on a
messieurs.
Pas eu le temps, mais du coup, bah, ça doit être pour ça que le son est dégueulasse sur Twitch.
D'accord, et il y a déjà quelqu'un qui appelle, à mon avis. Ça va être une émission de ouf. Alors attendez, laissez-moi 2 secondes. Et ben pendant ce temps-là, tiens, présentez-vous mes petits camarades. Tiens, il y a PM, tiens, qui est là, présente-toi un petit peu.
Ouais, salut, bon bah écoute, hein, je suis PM, hein, j'ai vu la lumière, je suis rentré, je me suis incrusté. Et voilà, ce qui fait que bah, le son est tout pourri parce que bah, c'est peut-être à cause de moi un petit peu. Au final. Donc me voici, me voilà, et puis je partage le micro avec Tagazu.
Yes, bah alors attends une seconde PM, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'en fait on a un ami en commun.
C'est ça, tout à fait, Julien Marchal.
Exactement, qu'on embrasse.
Le bien nommé.
Et donc toi, les métiers de la radio, bah en plus ici t'es dans une bonne école, hein. Je peux
clairement,
te dire
que... clairement, ouais, ça commence pas mal.
Carrément. Donc toi, ça t'intéresse assez. T'étais assez intrigué par la radio.
Ouais.
Et
ouais, tout à fait. Ouais, je suis un gros fan de radio depuis que je suis gamin. Voilà, comme je te disais, j'ai grandi avec le film de Howard Stern, son film autobiographique. Et puis bah voilà, j'ai eu la chance de pouvoir venir ici pour voir un petit peu comment ça se passait et me voilà tout simplement.
Yes, bah écoute, merci à toi. Alors normalement, dites-moi sur le stream, mais normalement je pense que c'est mieux. Et il est là, il est beau, mesdames, messieurs. Je t'ai même pas envoyé les applaudissements, je suis désolé, c'est Tagazou.
Ah, tu les envoies pour moi. Ah,
ouais.
Génial.
Ah bah Tagazou, bah on savait pas trop. Il y a un mec qui est rentré avec une capuche, des lunettes.
Bah bonjour, moi c'est Tagazou, je suis fan de Vide-Grenier, je sais pas ce que je fais ici. On m'a mis un micro, donc je parle un peu de ma passion et des jeux vidéo, j'adore ça.
Bien.
Hein?
Et tu en parles bien.
Des Vide-Grenier, oui, j'en parle super bien. Les jeux vidéo, un peu moins bien.
Mais le jet privé de Tagazou est égaré juste derrière nous, hein, d'ailleurs, grâce au Vide-Grenier.
Mais d'ailleurs.
Ça fait du monde sur le parking là.
Ça fait du monde.
Ah, mais je sais pas si t'as remarqué, Étienne, mais devant il y a un stade. En fait, il y a jamais un couillon de footeux dessus. Il y a que des hélicoptères et des grosses bagnoles. Quoi.
Voilà. Moi, je suis venu en Switch.
La blague.
T'aurais pu venir en Fiat Multipla, cela dit. Bon, ça va, Tagazou, t'as joué à quoi
oui,
cette semaine?
Oui, ça va. Ben, j'ai pas. Si, Monster Hunter encore, hein, parce que c'est comme tu disais, on a l'impression d'aller bosser. Hein, c'est-à-dire, on fait la petite partie de Monster le soir pour faire 2-3 petits monstres. Voilà, on est content avec mon frère et puis ma belle-sœur. Voilà, on fait ça en famille.
Ah, c'est vrai?
Ouais, ouais, c'est yes. Hyper cool. Et, voilà, je le salue. Hein, il a trouvé une petite geekette. Alors, c'est génial parce qu'on peut maintenant chasser en famille. Donc voilà, je fais mes petites. Et puis bon, j'avais pas fait Walking Dead en série télé. Et du coup, voilà, je rattrape la saison 7. Et mon Dieu, quel super acteur ce Negan. Franchement, ils ont choisi. Voilà, j'avais lu la BD. Et j'avais peur un petit peu qu'ils prennent un petit peu un acteur sans charisme. Ou avec un charisme voilà, en dessous de celui-là de Rick, hein, pour ceux qui connaissent la série. Et ben non, il est génial cet acteur. J'adore.
Yes.
Donc voilà, je suis à fond dans la série, puis là arrive Ni no Kuni 2, donc j'ai commencé à voir les tests qui ont l'air pas mauvais, donc
ouais, ça se tient, ouais.
Plutôt bien, donc j'ai pris la grosse édition collector, parce que maintenant ils mettent des vinyles aussi dans les collectors, donc forcément, moi ça m'attire, quoi, vieux comme je suis, un vinyle, ils mettent une cassette, bientôt ils vont mettre une cassette VHS et tout, ça va être génial, mais voilà, du coup j'attends avec impatience ce jeu.
Yes, ouais, il sort vendredi.
Ouais, vendredi.
Alors, moi, du coup, je l'ai commandé sur Amazon et vu que je suis une pince et que j'ai pas mis un euro, je vais le recevoir lundi.
Ah, bah, moi, ouais, pareil, hein. Donc, on pourra le découvrir ensemble si tu veux.
Ah, ouais, j'adorerais. Mais surtout que moi, je me suis lancé dans un autre truc, du coup, entre temps. Je vais vous raconter ça dans un instant. Qui pique, qui est pas mal, qui pique un peu quand même. Et il est là, les beaux, mesdames, messieurs, c'est Wayne.
Salut à toutes, salut à tous. Eh bien, écoute, je suis là cette semaine un peu plus tôt que prévu. Voilà, comme je t'avais dit, je t'ai envoyé un petit texto pour pas mentir aux auditeurs.
Oh là là, il a loupé la vente.
Je devais pas être là ce soir, au final mon rendez-vous s'est annulé, c'est pas grave. Ça sera reporté dans la semaine.
Et voilà, Stéphane Plaza, il rafle tout. Hein. Ça, c'est terrible. Stéphane Plaza, c'est un petit peu le Tagazou des Vide-Greniers.
J'adore la comparaison.
Voilà. Oui, non, mais c'est ça.
C'est ça.
Donc voilà, et sinon cette semaine, j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer. Donc quand j'ai branché la console, c'était soit pour faire une petite partie de Fortnite, soit pour jouer à Super Hot, qui est gratuit en ce moment sur la One.
Yes.
Donc j'ai pu découvrir et qui est vraiment cool. Sinon, cinématographiquement, on a été voir Black Panther. Voilà, parce qu'il fallait le voir avant les Infinity War. Lui, pour le coup, on me l'a survendu. Je me suis. Enfin, j'ai été déçu. Enfin, déçu, oui et non. Mais pour moi, on me l'a beaucoup survendu en me disant ouais, c'est un excellent Marvel. C'est un Marvel voilà, classique, il est bien, faut le voir, mais c'est pas non plus...
Beaucoup ont dit que c'était le meilleur
Faut vraiment se détendre hein, sur le sujet, parce qu'il est loin, j'en ai vu des meilleurs, des Marvel, il est loin d'être...
Gardiens de la Galaxie.
Ouais, pour moi j'ai préféré les Gardiens de la Galaxie, effectivement. Le personnage est très intéressant, c'est un peu le Batman de Marvel, voilà, mais c'est... voilà, c'est pas non plus un épisode de dingue. En fait, il manquait pas la série avant d'aller voir Infinity War. À part si on veut vraiment découvrir un peu plus le personnage, mais sinon, c'était pas nécessaire. Voilà, et puis après, niveau série, on vient de finir la série Lucifer sur Netflix, qui est une très bonne série, on passe un bon moment.
Yes, ah oui, où c'est genre le diable qui est un peu dans notre époque.
En fait, c'est le diable qui décide de quitter les enfers. et de venir passer sa vie sur Terre en tant qu'humain. Sauf qu'il garde ses pouvoirs de démon et de dieu des enfers, et c'est assez drôle. Et le personnage est très bon, et je rebondis juste sur ce qu'a dit Tagazu par rapport à Walking Dead.
Tu peux rebondir sur Tagazu?
Ah, je peux rebondir, hein.
Rebondis sur moi, vas-y,
il y a de la surface ça. Pour rebondir sur Tagazu.
C'était tellement gratuit.
Je rigole. Et non, Negan est très bon et très fidèle aux comics, même si l'histoire aurait dû suivre le comics, pour ceux qui le lisent. La série est trop partie dans les chemins de traverse, mais pour le personnage, ils ont fait le taf comme il fallait.
Yes. Et il est beau, mesdames, messieurs, c'est Makoas.
Bonsoir.
Mais c'est moi ou t'as un anneau dans le nez que t'avais pas la semaine dernière?
Oui, je me suis fait percer mercredi.
Par la vache qui rit, qu'on embrasse d'ailleurs. Voilà. Et ça vous fait pas trop mal dans le nez comme ça?
Ça pique un peu.
Ah, ça pique.
J'ai eu les larmes qui coulaient, mais.
Ah bah je t'arrête.
Alors, tu parles du piercing, mais il y a eu aussi quelque chose capillairement.
Ah oui, t'as fait aussi une teinture de veuche.
Oui, j'ai essayé, c'est intéressant.
T'es en pleine recherche capillaire.
Non, mais j'avais fait ça il y a quelques semaines et j'ai voulu faire plus clair et du coup, ben. Ça tient pas trop.
Toujours faire un point cheveux.
Ouais, point cheveux, point teinture.
C'est voilà. Hyper radiophonique
si
en
vous,
plus.
Si vous voulez des conseils.
Ah, mais nous, on est la seule émission de radio. On est l'émission de radio la plus radiophonique du monde. Ouais, c'est pour ça qu'on la filme depuis quelques années d'ailleurs. Parce que. Non, mais. Parce qu'il y a quelques temps, c'était Makoas Guetta. Maintenant, c'est Jean-Louis David, le gars. Je te jure.
Je change tous les jours de rôle.
Moi, tu joues à quoi en ce moment?
Eh bien, je joue tous les jours à Nosgord. C'est pas vrai, parce que je.
Oh bah
ah bam oh, là, il va ascenseur émotionnel.
C'est ça. Non, je plaisante, je suis pas du tout jeu de stratégie, j'arrive pas.
Ah, bon, ça va alors.
Mais c'est pas du tout le jeu, c'était une plaisanterie. Sinon, j'ai repris Rainbow Six Siege.
Ah.
Et toujours Just Dance, j'ai pas arrêté de
yes.
danser.
C'est
voilà
terrible. Yes, il est venu nous rejoindre, mesdames, messieurs. C'est Étienne, je suis ravi de l'accueillir ce soir, mesdames, messieurs. J'envoie les applaudissements.
Merci, bonsoir.
Comment ça va?
Ben ça va super bien.
Yes.
Beaucoup mieux maintenant que le jeu est sorti.
Oui, j'imagine, mais on va en parler ça. Ouais, non, mais carrément. Mais justement, j'ai des tonnes de questions à te poser. Voilà, t'es venu, tu fais partie. Mais en plus, c'est ouf. Mais alors, je sais pas si les auditeurs sont au courant, mais alors. Toi tout seul, je sais pas.
Chez les rétro-gamers de Bordeaux, c'est ça que tu veux dire?
Non, mais t'es quand même un petit peu le papa des Volandes quand même.
Le papa, oh là.
Non, mais tu vois, dans les grandes lignes un peu.
Ouais, en fait, pour la sortie des Volandes, on était quatre. Enfin, pour la prod des Volandes, on était quatre. En effet, je faisais partie de la core team, donc les membres fondateurs. Voilà. En fait, il y a deux associés, donc Nicolas Canas et Sébastien Vidal, qui ont monté une boîte et on était deux graphistes avec eux. Voilà.
Yes, donc on en parlera juste après 20h, mesdames, messieurs. Ça va être un truc de ouf, j'ai des tonnes de questions à te poser. Vraiment quoi, hein, parce que Evoland, on en parlait encore la semaine dernière. Et puis Nosgard, évidemment, voilà, ça doit pas être rien. Combien de temps de développement pour Nosgard?
Pour Nosgard, presque 2 ans.
Presque 2 ans, t'imagines?
Ça fait déjà un an qu'il est en Early Access.
Yes.
Donc voilà, ouais, presque 2 ans.
Et t'imagines, on se posait la question pas plus tard que la semaine dernière sur les temps de développement. Un jeu comme Nosgard pour un studio indépendant, c'est pas péjoratif. Hein. Alors t'imagines les gros titres, ce qui, enfin, ouais, ça tourne sur peut-être 5 ans.
Tant que t'as le concept et l'idée, tu peux te faire piquer au poteau le concept et
oui, en plus. Jeu.
On a vu hein, pour les gros blockbusters comme Overwatch et Battleborn,
oui,
il
c'est
est
vrai.
Vraiment sorti.
Et tiens,
une semaine d'Overwatch.
Avant qu'on oublie, Étienne, quand toi tu vois, toi qui travailles dans un studio comme ça, quand tu vois des fuites. À ton avis, ça vient d'où? On se posait la question la semaine dernière, si c'était des mecs qui se faisaient virer, qui avaient un peu pris la mouche et qui vendaient la mèche, tu sais.
Non, il y a un peu tout. Alors,
est-ce qu'ils font pas exprès un peu?
Alors, comment dire, au niveau des fuites, il y a les studios qui communiquent par ça. Forcément, c'est de la com au moindre coup.
Ah, tu vois?
Il y a ça. Il y a aussi il y a les journalistes qui font aussi leur boulot et donc qui vont chercher des fois sur les profils LinkedIn toi les mecs qui mettent j'étais développeur sur tel projet, c'est pas encore sorti et donc voilà, ça transparaît donc ouais, il y a aussi des journalistes qui font leur boulot.
Oui, non mais c'est vrai que tu vois souvent passer des news genre le CV d'un tel a été mis à jour,
c'est
et
ça.
Il a travaillé sur la motion capture de je sais pas Uncharted 12. Putain, mais c'est vrai en plus.
Complètement. Et après il y a aussi il y a simplement des bruits de couloir qui sont plus ou moins fondés et voilà, entre deux soirées bières, tu dis bah ouais, je bosse sur ça alors que je devrais pas,
tu vois. Ouais, tu sais, des secrets de polichinelle un peu, genre.
C'est pour ça qu'on fait toutes les soirées bières, nous, pour essayer d'avoir les bruits de couloir à la voix du geek.
Moi le problème c'est
qu'on a les news en avant-première.
Moi je fais les soirées bières et souvent je sers de couloir. Mais j'ai pas le cul d'une info de jeu vidéo moi par contre. Et là alors je sais pas, je vais pas dans les bons endroits, je crois. Non mais je te jure, c'est ça. Depuis que j'ai la barbe, je suis tatoué, je ressemble à un hipster, c'est fini, c'est terminé. J'ai une vie sociale. Un truc de fou. Bon bref, en parlant de ma vie sociale, justement, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, déjà, deux, une. On voulait streamer un jeu qui s'appelle The Raven Remastered, donc que j'ai commandé. Et le problème, c'est qu'il est pas sous-titré. Alors pour un jeu d'aventure, c'est embêtant. C'est tout en anglais et surtout, ils ont des accents pas possibles. Ça aussi, on va en parler. Si ça te dérange pas de tout ça, toi, on a des tonnes de questions. Mais le, enfin, c'est un anglais du Texas, quoi. Et après, t'as le QCM, quoi. Ah bah là, je sais pas à quoi répondre, là. Donc bon, ça, ça dégage. Je l'ai renvoyé à Amazon. On a joué aussi à The Conceal, mesdames, messieurs, d'un studio bordelais.
Oui, tout à fait.
Que tu dois connaître.
The Big Bad Wolf.
Et qu'on embrasse parce qu'ils sont injoignables, les gars. Ils ont zéro... En fait, ils ont une adresse mail, c'est pour postuler.
Ouais, ils ont beaucoup de boulot, on va dire.
Bah, j'aimerais bien qu'on les reçoive, tu vois, pour en parler. Parce que The Conceal, j'ai adoré, j'ai fait tous les trophées. Ça a été une claque pas possible. Et... une espèce de fierté que ça soit d'un studio bordelais, sans rire. Et ils sont injoignables, ils ont une adresse, c'est pour postuler. Et quand je leur ai dit, c'est pour la presse et tout, et tu reçois, nous ne recrutons personne. Je t'ai dit, mais c'est pas ça la question. Donc c'est assez terrible, si t'as des contacts et tout, ce serait cool. The Conceal, il est très bon. Franchement, je vous le conseille, c'est un jeu épisodique, c'est magnifique.
Bah là, ils vont se manifester, et là, t'es en train de leur faire de la pub.
Non, mais sans rire. Et même Kogu, d'ailleurs, une petite parenthèse sur Kogu, il est en train de platiner Bloodborne. Il lui en manque un.
Ça y est. Yeah.
Il est complètement mordu, il est sur le DLC. Mais il sera peut-être là la semaine prochaine, tiens d'ailleurs.
Ah, ça fait plaisir.
Ouais. Mais depuis le temps.
Ouais, carrément. Ça, donc The Conceal, c'est fait. Vendredi sort Way Out. Vous savez, le jeu où faut un peu la Prison Break là.
Ah, où faut Way Out.
Way Out, pardon.
Ok, je comprends mieux pour Ubisoft.
Yeah, ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Yeah, on scale for. Mais j'apprends l'anglais avec The Raven Remastered aussi. Alors je galère, tu comprends. Mais donc ouais, il sort vendredi, donc on essaiera de le streamer. La particularité de ce jeu, c'est qu'on ne peut y jouer qu'à deux.
Ouais, et ça c'est vraiment cool.
Enfin, bah, c'est vraiment cool,
le concept
mais
me plaît vachement.
Bah, si tu veux y jouer tout seul, faut une manette dans chaque main. Je vais pas, je voulais y jouer avec ZZ, mais voilà, c'est non, c'est mort.
Et le petit, non.
Ah bah il est trop petit. Parle. Là, il vient de découvrir son Trilili, mon petit pote.
Donc
on en est là. Eh ben, il a 17 ans quand même.
Il serait pote un joystick, hein. Ça commence comme ça.
Hein. Et d'accord, il va écouter les podcasts plus tard, il va entendre que son papa a parlé de ça à la radio.
Oui, c'est vrai. C'est ouais. Bah, on a même fait l'annonce de l'enceinte, enfin le fait qu'elle soit enceinte en direct à la radio quand même. Donc ça, et oui, il y avait un problème avec les replays. En fait, on est sur PodCloud et iTunes, et en fait les replays, moi je les charge sur archive.org. Et en fait, de temps en temps, ils font des blagues, ils virent... Alors, ça fait sourire Étienne, c'est un site de merde ou quoi?
Non,
ils sont pas... en Californie, on peut dire ce qu'on veut, hein.
Non, mais je suis venu il y a quoi? Il y a 3 ans. Je vois qu'on est encore très bisous-quéquettes ici, donc c'est bien.
Ah bah, on change pas une équipe qui
gagne. On est en terrain inconnu.
Mais carrément, t'inquiète. Ah oui, on est très pipi-caca. Mais du coup, voilà. Donc, en fait, ils ont switché une bonne partie des replays. Il y en a une quinzaine sur les 200 hein, qu'il y a. Donc, faut que je les remette, sauf que c'est très compliqué et très long. Faut que je les mette un par un. Donc voilà, ça va prendre du temps. Laissez-moi un petit peu de temps. Dieu merci, on a la fibre maintenant. Je fais des rimes en plus. Grand cornichon, on m'appelle. C'est comme grand corps malade, mais avec des nichons, quoi. Bon, bref. Mais un truc comme ça. Et je me suis lancé dans The Surge. Il y a ta gueule, il se tient la tête dans les mains.
Où on est parti, où on est fatigué là, cette émission.
Carrément. Et donc je me suis lancé dans The Surge, qui est un Dark Souls-like, un petit peu futuriste.
Ça m'étonnait que tu l'aies pas fait, parce qu'il est sorti quand même depuis assez longtemps, depuis 6 mois.
Eh ben j'attendais qu'il baisse un peu, parce que j'étais pas trop sûr de moi. Et finalement, c'est du studio Deck 13. En fait, c'est les papas de Lord of the Fallen que j'ai adoré. Et du coup, je suis en terrain conquis. Donc j'adore. On le stream toute la semaine en attendant Ni No Kuni et A Way Out. Yes, allez, juste avant qu'on fasse les news, j'embrasse le chat. On a qui? Il y a du monde ce soir. Il y a Double Funk, il y a Sgrog, salut à toi, il y a Maleficio, il y a Isild, il y a FX in the Mix qui fait salut, désolé du retard, j'ai écouté le reste de l'émission de la semaine dernière sous la douche. Ça fait toujours plaisir, il y a Richie, donc il y a Léa aussi, tac, et il y a Cantalou Gaming, merci pour le follow, salut à toi. N'hésitez pas à laisser des messages, on répond à tout en direct. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news?
Oui.
Comme ça, moi, je vais souffler un peu et je vais aller faire un petit peu de repassage.
Si, moi bien.
Yes. Ah, si. Eh ben, allez, vas-y. Ben, PM, je crois que t'as une news en plus.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, alors, tout à fait, ouais. Voilà. Ouais.
Je prends ma grosse voix.
C'est pas ma guerre.
Ouais,
c'est ça.
Ah ouais, c'était une petite news, en fait, concernant le combat que mène le magazine Canard PC... contre son distributeur de presse Prestalis.
Yes. Alors, parle bien dans ton micro, s'il te plaît.
Ouais, excuse-moi. Ouais. Alors, je sais pas si vous connaissez Prestalis. Donc, c'est le plus gros distributeur de presse en France. En fait, ils font 75% des quotidiens et des magazines en France. Et là, ils ont ponctionné Canard PC en décembre de 25% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que donc, ils leur ont dit, vous nous donnez 25% ou sinon, avec vous, c'est fini, c'est mort. Donc, il faut voir que Canard PC, c'est quand même un petit canard qui existe depuis 2003, qui fédère quand même beaucoup de monde autour de la communauté jeux vidéo.
Ah oui.
Et notamment PC, quoi. C'est des anciens de joystick. Donc, là, c'est un petit peu la fibre nostalgique qui parle, quoi.
Ouais, mais... Et puis, ils ont surtout un ton à eux. Hein.
Oui, ils ont un ton, ouais. C'est le ton de joystick. Ouais. C'est le ton les magazines qu'on lisait dans les années 90, hein, pour les plus anciens d'entre nous. Et donc voilà, les gars, ils sont un peu au bord du gouffre, si vous voulez. Et il y a pas que, quoi, parce que Prestalis, bah forcément, ponctionne aussi beaucoup d'autres magazines. Et bref, c'est un truc ultra intéressant. Si vous êtes amateur de presse, si vous aimez toujours continuer à lire des magazines tranquilles chez vous, dans votre pieu et tout, plutôt que de lire sur des tablettes, ce qui est très bien aussi, c'est pas un problème. Mais renseignez-vous un petit peu sur tous ces combats-là. Et Canard PC là, a lancé un Ulule au bout de 35 heures ils ont éclaté leur plafond, ils demandaient 100 000, au final là ils ont eu 150 000, ce qui fait qu'ils vont pouvoir peut-être ressusciter un magazine qui s'appelle Humanoid, qui date de 2015-2016. Il y a dû avoir quoi, 6 numéros à tout casser, mais c'était un truc qui était excellentissime. Et donc voilà quoi, il n'y a pas que qui sont concernés. Donc si vous avez un magazine cher à votre cœur, renseignez-vous, ils sont peut-être au bord du gouffre quoi, et donc il y a peut-être moyen de leur filer un petit bifton et de les aider quoi.
Yes, alors avec tout le respect que je leur dois, si tu donnes à tous les projets Ulule, à tous les jeux qui sont machin, il te faut 8 payes.
C'est clair.
Non mais c'est vrai, entre le streamer que t'aimes bien, à qui tu fais des dons de 5€, ta sub 8 gars parce que t'aimes bien les regarder jouer au lieu de regarder la téloche, après tu donnes pour un magazine, tu donnes pour un jeu, après tu donnes parce que le gars il a l'entrée d'Intermarché et t'as un peu de monnaie, t'es au bout du rouleau après. Non mais c'est vrai quoi,
il faut les enfoirés, bam.
Non mais il faut gagner combien dans cette société en vrai pour faire plaisir à tout le monde?
J'avoue, bah, moi pendant des années j'ai donné, je crois que c'était 5 balles, bon c'est pas énorme, hein, 5 balles par mois à No Life.
Moi aussi j'ai été abonné pendant longtemps.
Franchement, j'ai jamais regardé parce qu'à chaque fois que j'allumais ma télé,
ça valait le coup quoi.
Non, mais c'était juste pour Médoc et Muguri et puis voilà, ouais. Le côté jeu vidéo, à chaque fois que j'allumais la télé, je tombais sur de la J-pop. Donc
c'est toujours le cas.
C'est fini, ils ont tous été virés, il y a plus de jeux vidéo à No Life.
Bah oui, c'est bien.
Donc voilà, donc bon, ils auront plus mes 5 euros.
Voilà. Yes, allez ta gazou enchaîne s'il te plaît, sinon on va être en retard.
Moi je vais vous parler d'une société qui est pas au bord du gouffre du tout, ils ont pas besoin d'Ulule, c'est Epic hein, avec Fortnite parce que ça cartonne.
Oh putain.
Ça cartonne, là, il a rapporté 1,5 million de dollars, je suis toujours halluciné. Sur iOS grâce aux microtransactions.
Bah tiens.
En même pas, en 2 semaines, c'est ça. C'était 2 semaines que c'est sorti. Et aussi, je vous parlais aussi du streamer Ninja. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Ah oui, lui il est refait.
Ouais, ça y est, il a donné ses. Ce matin, la presse s'est revenue pour un mois grâce à Fortnite. Il a fait 1,5 million de dollars quand même.
Par mois. Hein.
Hein, oui, par mois, le dernier mois, hein, parce que bon, Fortnite, il était à fond, il a fait un Twitch avec des rappeurs comme Drake, où il a battu le record pour un seul stream, le record sur Twitch.
J'aimerais pas payer ses impôts à lui, en vrai. Hein.
Bah après, c'est les sponsors, et surtout aussi Twitch Prime, l'abonnement et tout, qui lui rapporte quand même pas mal de sous.
Pour info, on en parlait avec PM la semaine dernière, les dons, t'es sujet aux impôts, hein, ça se déclare. Théoriquement, quand ta mémé a fait 100 euros à Noël,
donc nous on les déclarer aussi.
Non, on n'a pas de dons.
Et les mecs qui font des vide-greniers, c'est pareil.
Ah oui,
j'en ai balancé un à l'URSSAF récemment.
C'est vrai. Ah mince. Bon bah je suis dans la.
Non, mais c'est vrai. Les dons sont sujets aux impôts. Hein. Si ta grand-mère te donne 100 euros, dans l'idée, faudrait que tu les déclares en vrai.
Ah oui, on les déclarera, hein, s'il faut, et je déclarerai. Hein. Puis je me mettrai à Fortnite en stream. Non, je suis moins fort que lui. Faut savoir quand même qu'il a quand même battu aussi, c'est un joueur d'Halo professionnel, donc c'est pas n'importe qui. Et surtout, il a battu le record pour ceux qui jouent un peu à Fortnite en duo, en mode duo du nombre de tués. Il en a tué 36, ce qui est quand même énorme.
Ah ouais, joli, ouais. 36 sur 100.
Voilà, c'est-à-dire à deux, ils ont pris chacun la carte de chaque côté. Bon, c'était quand il y avait les nouvelles. nouvelles villes, donc les gens voulaient visiter les nouvelles villes, donc ils savaient où ils se trouvaient. Donc voilà, donc chapeau surtout à Epic et de cette magnifique réussite de Battle Royale. PUBG aussi hein, cartonne de l'autre côté, donc ouais, c'est à la mode. Mais j'ai envie de dire aussi que ces jeux, pour y avoir joué beaucoup à Fortnite, hein, un peu moins à PUBG, mais qui sont bien finalement, que y a quand même, ils amènent à un autre concept que le Battle Royale, je trouve, avec les constructions, avec le style un peu décalé, cartoon, donc il n'y a pas que du Battle Royale.
En parlant de Fortnite, j'ai vu une vidéo très drôle, ils ont mis une camionnette, genre un marchand de glace, et en fait, chaque objet a une barre de vie, donc faut le casser. En fait, ça faisait 100 000 de vie, ce qui est beaucoup. Et donc en fait on voit les mecs qui la cassent, ça prend 10 minutes et dedans y'a rien. J'adore, c'est magnifique. Et tu vois les mecs qui cassent, et dedans y'a que dalle. Bref, Wayne.
Ben moi une petite news qui va faire plaisir aux gens de mon association. Ce soir on est au Random pour une soirée DBZ à l'ancienne.
Auto-promo.
Voilà, écoute, tu fais bien. Une petite news, voilà, hein, des gens de la communauté bordelaise. Donc les rétro gamers de Bordeaux sont ce soir à partir de 20h au Random à Bordeaux pour une soirée pour vous faire redécouvrir les jeux DBZ qui ont pu sortir par le passé avec trois tournois possibles.
L'appel du destin, DBZ de l'appel du destin.
Je sais plus exactement lesquels il y a. Il y en a un sur SNES, il y a un Budokai, sûr.
Celui-là, je l'ai sur Super NES.
Et voilà, donc ça va être une bonne soirée en perspective. Donc si vous savez pas quoi faire après nous avoir entendu à la radio, foncez au Random.
Yes, donc le Random c'est dans le centre de Bordeaux. C'est où exactement?
C'est
d'ailleurs
Barrière Saint-Jeunesse.
D'accord, à l'arrêt de tram Barrière Saint-Jeunesse.
Eh ben, c'est pas la place du magasin de l'ancien.
Ah non, c'est à côté, c'est à l'autre côté, du côté
d'accord.
Bordeaux.
Ok, ça marche. Macquas, une petite news?
Oui, une petite news qui va faire plaisir à votre porte-monnaie. C'est pour les joueurs de Nintendo, il y aura une petite semaine de soldes. C'est à partir du 22 mars jusqu'au 16 avril, enfin plus d'une semaine. Non, jusqu'au 5 avril, pardon, en fait, j'ai rajouté un 1 devant. C'est du 22 mars au 5 avril. Il y aura plus de 140 jeux en solde donc sur le store de la Wii U, Switch et 3DS.
Yes.
Voilà.
Oh, ça peut être cool ça. Allez, moi j'enchaîne avec une news, mesdames, messieurs, qui a fait trembler les internets. La semaine dernière, on a eu droit à un Nintendo Direct. On a eu quelques images du Mario Tennis. Et...
J'aurais dit Smash, mais bon, Mario Tennis...
Oui, c'est quoi
aussi.
C'est Mario... Non, c'est... Smash Tennis.
C'est Mario Tennis Ace. Hein.
Voilà. Et en fait, on voit à un moment Mario avec une raquette. Et on voit aussi Luigi, mesdames, messieurs. Et vous savez que... Ah bah...
Non. Incroyable.
Non, mais attends. Non, mais c'est là où Internet est magnifique. C'est qu'à un moment, on voit Luigi, sauf que d'un revers de la main... On aperçoit une petite bouboule dans son short.
Je me disais, cette info est capitale.
Tu l'as vu passer ou pas?
Non, j'ai pas vu.
Et en fait, il y a un internaute qui s'est amusé à mesurer potentiellement la taille du sgeg de Luigi. En partant sur la taille que fait Luigi par rapport à la taille de la raquette, si c'est une raquette officielle qui fait la bonne taille.
Ouais,
on partirait sur quand même 10 cm au repos, mesdames, messieurs.
Bravo. Bravo au gars, surtout qu'il s'est amusé à faire ça, il a rien à foutre. Hein,
Internet est magnifique.
Bravo mon garçon, Pôle emploi t'attend pour trouver un vrai travail.
Non, mais c'est un truc de ouf. J'ai vu passer la news, ça m'a fait halluciner. Mais le gars, sachant que ça reste une capture d'écran, tu vois, c'est une image. Le gars, il s'est dit, bon, alors le manche, il fait ça, de la raquette, machin. Non, mais t'imagines le dos, quoi.
Non, mais le dos, je vois avec son décimètre sur l'écran comme ça.
Alors, j'aurais produit à l'échelle 1/26e de l'image.
Non, mais c'est ça, quoi. Les mecs, c'est des tarés. Mais tu vois, mais dans Mario Odyssey, on voit les tétons de Mario. Ça y est, c'est au bout du rouleau, là. Ça y est. Yes, allons enchaîner, les gars.
Moi, j'ai quelqu'un d'autre news. Moi, j'ai Lumines qui sort en remaster. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez de Lumines, c'était un super jeu sur PSP qui était sorti, je pense, au lancement de la console d'ailleurs. Puzzle game et jeu de rythme en même temps, et les musiques étaient hyper cool. Et si je me rappelle bien, on pouvait même mettre, je sais pas, ces musiques où on pouvait télécharger d'autres musiques et qui étaient connues.
Ça t'avait des packs de musique. Hein.
Des packs de musique. Et franchement, je recommande parce que j'avais pris beaucoup de plaisir. Et il sort sur Switch, donc comme d'habitude, on va me dire, il y a que des remasters sur Switch. Oui, il y a beaucoup de remasters, mais ils font des remasters cool. Et Lumines, voilà, je voulais le souligner, qui va bientôt sortir sur Switch.
Yes. Wayne? Non plus? Macoas? Ça va les mecs, sinon vous voulez peut-être des petits parasols dans vos verres d'eau ou des trucs?
Bah déjà on voudrait bien un verre d'eau.
Ah bah t'as qu'à te servir, la cuisine est là de la radio hein, si tu veux. Hein. Bah moi j'enchaîne, il y a eu pas mal de trucs quand même. On a vu le trailer de Shadow of the Tomb Raider.
Ah oui.
Le
oui.
prochain Tomb Raider. Exact. Alors, hypé ou pas?
Ah bah moi comme tous les Lara Croft.
Prends-toi le micro au pire.
Hop là. Hypé comme les deux autres précédents, même si j'ai pas fini le deuxième. Je sais que c'est Léa qui l'a fini, donc du coup, moi, faut que je le termine, mais ouais, ouais, IP.
Yes, bah pareil.
Moi aussi, IP.
Franchement, je suis ultra chaud. Toi, Etienne, c'est le genre de jeu.
Quand on est complètement, si tu veux, le dernier Tomb Raider que j'ai fait, c'était sur Saturne, donc ouais, ça te donne une idée.
Complètement IP.
Et
complètement IP, ouais.
Non, mais tu vois, comme quoi, non, mais sans déconner, quand on travaille dans le jeu vidéo, est-ce qu'on a envie de jouer en vrai à côté?
Alors, ouais, mais pas du tout au même jeu. Tu vois, par exemple, après 8 heures de boulot, j'ai pas du tout envie de me coller derrière un PC. Donc voilà, tranquille avec la DS sur le canapé.
Il joue à Farming Simulator, mais dans son jardin.
T'es pas loin, je joue à Animal Crossing, voilà, avec mon copain, on est en train de le poncer, quoi, vraiment.
Yes.
Ouais.
Et comme quoi, tu vois. Et non, mais c'est ça, on se dit toujours, voilà, tu sais, t'es gamer à fond, t'y travailles toute la journée, le soir, c'est vrai que t'as peut-être pas envie.
Ouais, c'est clair, t'as fait ça toute la journée. Bon, après, il joue pas, hein, il modélise.
Oui, non, mais tu sais, t'as le côté écran et ouais. quand même la concentration, puis tu sais, ça reste l'univers du gaming quand même.
Oui, complètement.
Donc, tu sais, il y a un moment, t'as peut-être envie de te détacher. Moi, je voulais vous parler aussi rapidement de Battlefront 2, qui va changer complètement son modèle de progression. Donc, ça peut être cool. D'ailleurs, j'embrasse Jean-Luc Salat, on a fait une partie dimanche. C'était énorme. Jouer avec Jean-Luc Salat, c'est...
C'est comme Goustique, ça fait partie des grands moments de sa vie.
Ah non mais carrément, on a tapé des barres, franchement c'était vachement bien. Et donc ils vont tout changer, hein. Fini les lootbox, fini tous les trucs.
Ah ouais, était temps, mais le jeu est quand même sorti depuis 3-4 mois. Mais bon.
Donc c'est pas pour maintenant, mais ça arrive bientôt et il y aura une progression peut-être plus centrée comme sur le 1. Plus par le mérite et moins par la chatte et puis le... Enfin voilà quoi, tu vois, voilà, l'argent.
C'était le mérite aussi, mais bon c'était un peu, voilà, un peu aléatoire.
Bah tu payais moins déjà.
Voilà.
Tu payais moins. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a une fuite. Alors, une fuite ou pas. Mais, alors, on était parti sur Dynasty pour le terme, peut-être l'accroche du prochain Assassin's Creed, sachant que l'origine est sortie il y a quelques mois à peine. Donc, tout le monde pensait au Japon féodal. C'est une période, une époque qu'on réclame beaucoup. Et a priori, bah, ce serait pendant la Grèce antique.
Ah ouais.
Donc ça peut être pas mal.
Pourquoi pas, ouais.
Ah bah attends, ils annoncent déjà un nouvel Assassin's Creed là ?
Eh ben tu crois pas si bien dire. En fait, le développement est commencé depuis 1000 ans et ils ont vraiment commencé à mettre les bouchées doubles le jour même où Assassin's Creed Origins est sorti.
Mais est-ce que ça va faire une sortie pas à la fin de l'année, j'espère, parce que bon, est-ce qu'ils ont retenu la leçon des anciens Assassin's
ouais,
Creed
c'est ce que j'allais dire,
qui sortaient tous les ans et qui nous ont un peu
gavé,
faut bien le dire. Hein. Moi, j'ai pas fait celui à Londres à cause de ça parce que. Voilà, et je trouvais qu'il n'y avait pas trop de changements et que, voilà, un Assassin's Creed par an, c'est beaucoup.
Ah oui, non, mais carrément. Surtout qu'il, ça y est, il s'était mis un petit peu, tu vois, lever le pied, machin.
J'espère qu'ils ont compris qu'il ne faut pas le sortir à la fin de l'année, on verra.
Bah ouais, surtout que ça laisse peu de temps. Ça, et je voulais aussi qu'on parle, est-ce que vous avez vu la bande-annonce d'Infinite Ward, le prochain?
Non, mais je veux pas la voir et je veux pas qu'on en parle.
Oui, merci. Oui, moi je l'ai vu.
Alors, t'es chaud ou pas?
Ah oui, je suis chaud, le problème
ils
c'est
en
que...
Ils en montrent trop encore.
Voilà, il a raison de pas le regarder, ils en montrent trop. Voilà, t'es vraiment pour... Et pourquoi? Pour essayer de faire venir les gens, mais c'est bon. Si
parle tu, bien dans ton micro, mon poulet.
Ouais, si tu joues à... Enfin, si tu as regardé les autres Marvel, t'as envie de regarder celui-là, il regroupe tout le monde.
Bien sûr.
Donc tu vas aller le voir forcément, ils ont pas besoin d'en mettre trop, surtout que... voilà.
Moi, y avait... depuis Thor Ragnarok, c'est fini, je regarde plus une bande-annonce.
Eh ben, j'ai encore essayé d'aller au bout, je me suis encore endormi. À chaque fois, je gratte de 10 minutes, à chaque fois, je m'endors.
Donc voilà, moi je dis pour Infini.
Moi je veux le voir, bien sûr.
J'ai envie de le voir, mais voilà.
J'ai vu que la
bande annonce.
Moi j'ai vu que la toute première bande annonce, et déjà dans la bande annonce, j'ai dit calmez-vous quoi. Enfin, ouais. C'est bon.
Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit Iron Man, il se passe un truc, bon pour pas trop raconter pour Wayne, mais il se passe un truc pour Iron Man. Donc t'imagines des trucs, voilà, son armure elle a été upgradée et tout. Et il a fait la couverture Iron Man d'un magazine. On voit encore plus son armure,
ouais,
machin.
J'ai vu, ouais.
Ouais, non, mais moi c'est mort, je veux rien voir.
Les jouets sont. Voilà, il y a déjà des jouets en vente avec cette nouvelle armure.
Ah ouais?
Donc, ouais.
J'ai vu passer, c'est pareil, j'ai tout squeezé. Ouais. Et pareil, il y a un très bon film qui va sortir, Ready Player One.
Ah oui!
Qui va sortir mercredi. C'est pareil, ça j'ai regardé que la première bande annonce et encore c'était qu'un teaser donc ils ont montré pas trop. Mais ça c'est pareil, je suis hypé de ouf et je pense que beaucoup de geeks va être hypé comme moi aujourd'hui, moi j'attends que ça.
Je méfie. Franchement, je vois la moue dubitative de Étienne et je méfie beaucoup parce que j'ai l'impression que voilà, il faudrait pas que ça soit trop de références et finalement qu'il y a rien derrière.
Moi je m'en fous, j'ai vu la DeLorean, ma vie est faite. Il la remettre dans
c'est
un
ça,
film.
On te met une DeLorean. Et
voilà.
C'est ça. Le truc c'est qu'on voit beaucoup de choses tirées de la pop culture quand même.
Ouais. Non mais moi je suis. Apparemment, là, alors, je me méfie toujours de ça aussi, mais la critique aux États-Unis et le spectateur est excellente.
Après, c'est Spielberg donc, quand même.
Voilà. Et ce qui me rassure aussi dans ça, c'est qu'on est sur un Spielberg, il s'est rarement trompé. Et...
C'est arrivé quand même.
Il s'est rarement trompé quand même. Ouais. Et...
Bah, il a fait plus de bons films que de mauvais
voilà.
quand même. Quoi.
Aujourd'hui, on va plus retenir les bons films que les mauvais. Et non, ouais, moi, ça, je suis chaud.
Ouais, c'est vrai que ça fait flipper parce que le mec, il a quand même, je pense, 70 berges passées. Il fait un film qui est en full 3D, full CGI et tout. Mais c'est vrai que, ouais, les critiques sont quand même bonnes. Donc, c'est quand même bien possible que ça cartonne au final, quoi.
Ah, bah oui. Ça va être, à mon avis, c'est un petit peu son avatar à lui, tu vois.
Je pense.
C'est un petit peu le film où il va tout donner, sachant que le mec, il nous a quand même fait Jurassic Park, qui reste un classique, genre où il a tout donné au niveau des effets spéciaux et tout. À mon avis, là, il va pas se tromper quand même. Surtout qu'attention, parce que là, il y a une communauté derrière.
Ah bah, il est attendu au tournant. Hein.
Il y a tous les geeks,
tout ce qui est montré dans la première bande-annonce. Il faut pas qu'il se rate le bonhomme.
Il y a Richie qui nous dit sur le chat, j'ai vu quelques critiques quasiment se pop-up sur le film. J'imagine que ça doit pas être mal. Et il y a FX in the Mix qui fait, il faut avoir confiance.
Exactement.
Je suis plutôt d'accord. Yes, bon, on a carrément le temps, dans 8 minutes, tiens, on s'écoute les colocs avec le pudding à l'arsenic, on va parler un petit peu avec notre invité Étienne, on va parler de jeux vidéo et de création de jeux vidéo. Est-ce qu'on peut te demander un petit peu ton cursus scolaire? Où est-ce que t'es arrivé comme ça par hasard ou
non,
c'est un truc
non,
de
pas,
gamin
pas par hasard, j'ai toujours eu envie de faire ça. Depuis que j'ai joué à Wonder Boy 3 en fait, je me suis dit ouais, c'est complètement fou, t'appuies sur des boutons, ça bouge, je veux faire pareil.
Yes.
Et du coup non, parcours atypique parce que j'ai fait une fac d'art plastique.
D'accord.
Donc voilà, rien à voir. Et j'ai appris la 3D un peu tout seul quoi en fait. Et donc voilà, je dis atypique parce qu'en fait à l'époque il y avait pas vraiment de formation, j'ai commencé le jeu vidéo il y a 13 ans maintenant. Donc voilà, à l'époque c'était pas aussi formalisé que maintenant. Maintenant il y a beaucoup plus d'écoles et de graphisme et de jeux vidéo. Voilà, Lenchmin pour citer que, parce que c'est une des plus grosses écoles et puis une des plus réputées dans le game design et la prod graphique dans le jeu vidéo. Mais voilà, il y en a d'autres, hein, Edge, etc. Mais voilà, moi je viens de la fac d'art plastique. Voilà, ça me laissait beaucoup de temps pour pouvoir apprendre par moi-même. Donc,
Yes, d'ailleurs, une petite parenthèse, est-ce que c'est bien ces écoles? Parce que pour citer Nagui. Qu'il dit souvent, mais souvent, tu sais, il a une émission le midi là, et une fois ou deux en zappant dessus, il y a souvent, tu sais, dans les candidats, des jeunes qui font des écoles. Alors, je prends l'exemple de la radio, mais des écoles de radio et de télé. Et il leur dit à chaque fois, ne faites pas ça, ça coûte une fortune. Et le mieux, c'est une radio associative. T'en fais 10 ans, tu prends l'XP et voilà. Et est-ce que ça vaut le coup ces écoles? Est-ce que c'est 10 000 euros l'année minimum quoi?
Ben en fait tout dépend ce que tu veux faire. Si y a des écoles qui forment très bien, mais qui forment de très bons techniciens en fait. C'est-à-dire que tu vas sortir de là, les mecs ils sont OP, ils peuvent bosser sur un Last of Us, voilà. Par contre c'est pas tout le jeu vidéo, ça c'est les jeux vidéo triple A. Maintenant si tu veux bosser dans un studio indé, ouais fais-toi ton XP pour le coup. C'est bosse sur des petits jeux, fais des Ludum, fais des game jam, c'est ces petits concours de création de jeux en 48-72 heures et fait faut produire par soi-même quoi et après voilà, une fois que tu t'es fait un petit peu ton bagage, tu peux quand même faire du jeu vidéo, du jeu indé. Mais toi il y a un jeu qui a cartonné qui s'appelle Thomas Was Alone,
qui est fait juste
avec des cubes quoi et pourtant ça a cartonné. Donc si le but c'est juste de faire du jeu vidéo, il n'y a pas besoin de faire d'une grosse école quoi.
Ouais, donc voilà, s'il y a des parents qui nous écoutent et qui ont peut-être voilà des enfants qui veulent travailler dans le jeu vidéo et tout, ça peut être intéressant. Voilà, donc renseignez-vous peut-être.
Après encore une fois, hein, c'est sûr, si tu veux bosser sur un triple A, voilà comme je dis, la Sauveuse, les techniques tu vas pas les apprendre tout seul, une école c'est royal pour ça quoi.
Ouais, carrément. Donc ça vaut le coup quoi.
Bah ça dépend ce que tu veux faire, c'est toujours pareil.
Yes. Et donc du coup voilà, et comment t'as trouvé, donc toi t'as fait ça chez toi quasiment, t'as appris en autodidacte. Et t'as fait quoi après avec ton CV? T'as postulé dans des studios?
Ouais, complètement. En fait, j'ai fait 5 années après le bac. J'ai fini par un DESS en gestion de projet multimédia. Et ensuite, comme il faut un stage de fin d'études, comme d'habitude, enfin un peu comme dans tous les cursus, j'ai envie de dire, là je suis allé toquer à la porte de Ban Monkey Studio, qui est un studio qui n'existe plus du tout maintenant, qui faisait des jeux sur PS2 Wii. Et je leur ai montré en fait mes modèles parce que la 3D tutorial m'intéressait énormément, donc je faisais déjà de la modélisation base def à l'époque. Donc je leur ai montré mes modèles et là j'ai été pris pour un stage. Et à la suite du stage, en fait, j'ai été embauché voilà, à Mad Monkey Studio où on a commencé à faire quelques jeux PS2, Wii et DS à l'époque.
Et sur Wii, non mais on se pose toujours la question, mais quand tu fais des jeux sur Wii, t'as toujours la Wiimote à la main pour. Enfin, je sais pas.
Pratiquement, quand tu testes, ouais.
Ah, tu vois ?
Complètement.
Mais après, c'est du sport en vrai.
C'est plutôt les développeurs, hein, les graphistes un peu moins. Mais en effet, quand il faut tester les phases de gameplay, ouais, t'as la Wiimote à la main.
T'imagines, t'es testeur sur Just Dance ?
Ah bah, t'as Makoas à côté qui est comme un fou.
Si t'as pas un petit déhanché, t'es pas bien. En même temps, le jour où Just Dance ils arrêtent la licence, tu vas danser avec les stars, mon pote.
En l'occurrence, le premier jeu Wii sur lequel j'ai travaillé, c'était Fort Boyard. Donc mon premier modèle, c'était Passepartout.
Vas-y, raconte-nous. Ah, je veux tout savoir.
Ça, c'est rigolo, ça.
Non, mais attends, ça veut dire attends.
J'ai fait un nain. Voilà.
C'est non, plus rapide qu'un mec normal en plus.
Non, mais c'est un truc de ouf. Mais non, mais c'est un personnage culte. Enfin, tu vois, c'est Passepartout. Et genre, c'était quoi ton job? T'as fait quoi? Son visage? C'est pas grave.
Modélisé en entier, de la tête aux pieds, en fait, avec les contraintes de la Wii, donc qui était celle qui est à peu près celle de la GameCube, parce que c'est pareil. Donc, pas des masses de triangles, et donc, fallait rendre un personnage réaliste, quoi. Donc,
Donc,
on avait cherché toute la doc, des photos de Passepartout sous tous les angles, et voilà, on modélisait Passepartout, le Perfora, et j'ai fait aussi le maître des jeux, les gars avec leur tête de tigre.
Non mais le truc de ouf.
Félindra tête de tigre.
Ouais, tu rêvais pas de Passepartout la nuit, genre, parce que du coup tu te bases sur des photos de lui, tu.
Ouais complètement. On l'a un peu sous tous les angles et on essaie de sculpter virtuellement le
un
visage.
Peu comme un serial killer, proche. Il avait un tableau avec ça, plein tableau. De photos de Passepartout.
Avec ses victimes.
Avec des liens rouges comme ça où il allait et tout.
Mais ça c'est absolument génial. Mais justement, on va en parler de ça, des créations pures pour les studios. Et j'imagine que c'est un jeu de commande.
Ouais, complètement. Là pour le coup, on travaillait avec des ayants droit, donc des gens qui ont une licence. Alors on travaille sur Fort Boyard, sur Totally Spies, voilà, donc des gens qui viennent avec leur licence et nous on doit adapter le jeu. Donc on propose quand même des gameplays. Bon, en l'occurrence sur la Wii, c'était la console des party games, donc c'était évident qu'il fallait faire un party game avec Fort Boyard.
Non mais il doit être magnifique Fort Boyard sur Wii en vrai. Mais si quelqu'un l'a, un auditeur, franchement je prends. Ah, je veux essayer de ça direct.
Alors ceci étant, ça m'a bien fait marrer. Donc j'étais dernièrement au cache là où bossait Quentin. Et en fait, il est au même prix que je sais plus un gros triple A.
Oh merde! Donc...
Ah ouais?
Il est devenu culte quoi!
Je me rappelle plus le nom du jeu, mais ouais, c'était. Voilà. Ça m'a fait marrer.
Le prix, c'était. Tu te souviens du prix à peu près?
Je crois qu'il devait être à 16€, un truc comme ça.
Ah oui, quand même.
Ouais, pour de la Wii, c'était quand même. Ouais,
musclé.
Ça fait cher la vanne quand même. Mais bon, mais en même temps, regarde, un jeu comme ça, on en rigole, mais 16€ d'occasion maintenant, il est sorti il y a quelques temps, donc tu nous as dit. Ouais, il y avait plus d'une dizaine d'années.
Ouais, c'était en 2000, je vais pas dire de bêtises, 2010 quoi, quelque chose comme ça. 2009.
Donc voilà, pas loin. Et combien de temps vous avez passé dessus?
Alors c'était très court parce qu'en l'occurrence on travaillait avec Mindscape qui était un éditeur qui est peut-être encore vivant, je sais plus, connu pour donner des délais très très courts. Donc je crois qu'on a bossé 8 mois dessus, quelque chose comme ça, même pas un an quoi.
Et justement, on rebondit là-dessus, parce que souvent on se plaint, nous les gamers, on dit « Ouais, mais le jeu, gna 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 ». T'imagines, 8 mois pour sortir un jeu?
Ouais, alors je vais même te dire plus fort.
Ouais.
On a travaillé avec un studio qui a fait Bienvenue chez les Ch'tis.
Mon Dieu.
Alors ouais, sur Wii, ouais. Donc un des moins bons jeux de la Wii. Mais c'était le premier jeu du studio. C'était pas le nôtre, hein. Et ils ont eu que 3 mois pour le faire, sachant que les validations Nintendo, ce qu'on appelle les TRC, donc une liste de comment dire,
de critères,
de critères de test pour valider ton jeu sur la console, ça prend 1 mois. Donc en gros, c'était leur premier jeu, ils avaient que 2 mois pour faire le jeu et ils ont réussi les TRC du premier coup. Donc
la pression, quoi.
Mais je leur tire mon chapeau. Là, quoi.
Les gars, ils ont des cernes comme ça, on les reconnaît, ils marchent dans la rue, les pauvres, et ils sont toujours parmi les gars. Non mais t'imagines?
Et c'est dingue parce que bon, vu que le jeu est pas quand même.
Non, il est vraiment pas ouf.
Il est vraiment pas ouf et nul, et voilà.
Bah, ça se comprend maintenant.
Ils ont pas de. Je suis sûr qu'ils le cachent pas sur leur CV ou ils le disent peut-être même pas.
Ouais, je sais pas, je sais même pas ce que la boîte est devenue en fait, mais bon,
à la rigolade, tu vois, pour le truc. Ouais, ça se tient quoi. Allons, on s'écoute le scud, les copains?
Allez, c'est parti.
Alors attention, parce que c'est une copine, c'est Camille qui a choisi le disque à m'envoyer le lien, sauf que vu qu'il n'y a pas de pré-écoute, le morceau dure très longtemps et j'ai pas le début. Donc je sais pas ce qui se passe. Vu que c'est un live, ça se trouve au début il dit « Est-ce que ça va bien Saint-Etienne? Je vous entends pas Toulouse !» On n'est pas à l'abri de ça les gars, je vous le dis. Allez les 20h, on revient juste après ça, on va parler avec Etienne, on va parler de Chirogame, on va parler de jeux vidéo dans un studio indépendant, mesdames, messieurs. Et puis voilà, on va parler de Nosgard aussi. Petit jeu sympathique, alors que j'ai essayé tant bien que mal de faire tourner sur mon ordi. J'ai streamé en même temps. Ah bah, franchement, j'aurais pu cuire un œuf sur le truc, je t'assure. Un truc de ouf. Allez, les 20h, on vient dans quelques instants, juste après les colocs.
Non. Clafouti au cura. Classique. Macaron foudroyant. Non. Tarte au venin de vipère. Pain de... Ok. Ha! Le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, dilué de la morphine, faites-y tirer à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non! Mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif et faites bouillir un feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiens du sang de lézard, bouillir dans un dé à coudre
et un peu de sucre en poudre.
Non! Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Dormez sur les bancs du nid, que mangeons les crocodiles. Vous versez la morora dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Je vais en mettre un seul. Décorer de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non.
Ouais.
Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic.
Sur 91.3. 91.3.
La voix du geek. L'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio.
Allons, on est de retour toujours en direct dans La Voix du Geek sur O2 Radio 91.3 en Aquitaine et sur O2Radio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours en live sur Twitch, twitch.tv/La Voix du Geek, la voix avec un E. Il y a des caméras dans les studios. Salut à vous. On est toujours en compagnie d'Étienne et j'envoie un message à Camille qui a choisi le disque, qui a fait l'unanimité sur.
Merci à toi, on a passé un très bon moment.
Sur les réseaux sociaux, sur Twitch et tout, ça a été terrible. C'est, franchement, on a pris une tanasse, un truc de ouf, quoi.
On Bref. A perdu tous nos auditeurs, hein. Ils sont tous partis.
Ah, c'est un truc de dingue.
Mais non, c'est bien d'enfance, c'est cool.
Oui, après, voilà. Alors, tout le monde nous réclamait la version originale. Alors, je suis désolé, voilà. C'était fait par des mecs qui traînent devant Carrefour, apparemment. Bon, bref. Allez, on est toujours avec Étienne de Shiro Game. On va parler dans un instant de son jeu Nosegard, mais juste avant, on va parler un petit peu de tout le cursus qu'il faut pour travailler dans le jeu vidéo, de ton parcours. Et on a mis une petite bande son que je pense que tu vas reconnaître.
Evoland.
Yes. Et ben justement, alors comment ça s'est passé? T'es d'abord arrivé chez Shiro Game. Alors, Evoland est né avant. Comment ça s'est passé toute cette période?
On a commencé en octobre 2012. Alors le Shiro Game, donc comme j'ai dit, c'est Sébastien Vidal qui venait de NCSoft, dirigeant de NCSoft Europe. Nicolas Canas, donc, qui venait de Motion Twin. Et ils ont décidé de monter un studio, l'un pour avoir un studio un peu plus à taille humaine, parce qu'NCSoft c'est un petit peu monstrueux. Et l'autre pour faire des jeux un peu plus ambitieux que, enfin, Nicolas Canas venait du web. Donc voilà, donc ils ont décidé de monter un studio. Ils ont recruté Jérémy Vitry d'Ubisoft, qui est un dessinateur, concept artiste, et moi-même. Et le premier jeu au départ, ça devait être Until Dark.
Yes.
Qui est un jeu qui est venu plus tard et qu'on a killé. Donc ça devait être ça, mais c'était un projet quand même assez ambitieux, et on s'est dit bon bah voilà, on monte une boîte. Le risque dans une boîte, c'est qu'il faut quand même que le cash arrive rapidement. Donc il fallait une durée de prod relativement courte. Et Nicolas avait fait une game jam, le Ludum Dare, donc un concours de création de jeu en 48 heures, sur le thème évolution. Donc là est né Evoland, le proto, on va dire, qui a cartonné, hein, il a gagné la game jam avec ça.
Ah oui, non,
Et donc bah, Nico s'est dit bon bah voilà, on va faire la version, la vraie version, quoi, une version un peu plus. Voilà, un peu plus complète. Sa version à lui était en 2D, et donc on a essayé de pousser un peu plus loin. Moi je venais de la 3D, et pareil, j'ai dit à Nico, bah écoute, quand j'ai passé mon test, lui il cherchait un graphiste 2D, un animateur 2D, et je lui ai dit bah non, moi je fais de la 3D, donc je vais te proposer un truc, après ça marche pas, on verra, mais en tout cas, voilà, j'ai proposé de faire mon test en 3D. Et on a commencé Evoland comme ça, la prod en tout cas, elle a démarré comme ça, en fait, en se disant bah on va un petit peu roder l'équipe là-dessus. On va voir si on arrive à travailler ensemble, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec la 3D, parce que Nico avait jamais fait de 3D d'un point de vue prog. Donc voilà, on a monté notre moteur à maison, etc. Ce qu'on appelle le flow de prod, quoi, le pipeline, ce qui sert tous les outils,
tout est fait maison, quoi.
Ouais, tout est fait maison. C'est D'accord. développé en Axe. Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est Axe, c'est le langage qu'a développé Nico. Donc Nicolas Canas, tous les jeux Motion Twin sont développés en Axe aussi. C'est une surcouche de Flash globalement, voilà.
Yes, alors il y a Sgrog qui nous dit j'ai adoré Evoland 1, pour le 2 j'ai eu un peu plus de mal, il faut que je m'y remette.
Ouais, c'est très différent. Enfin, Evoland 1 c'est une expérience très très courte où on retrace en gros l'évolution du jeu vidéo. On commence en 8 bits façon Game Boy.
C'est une idée de génie, hein. On en parlait la semaine dernière, mais c'est une idée de génie, hein.
Et c'est un Zelda-like en fait, et dans les coffres on va débloquer une évolution du jeu vidéo, donc on va débloquer la couleur façon Famicom, après façon Super Famicom, etc. Et on va arriver à la fin du jeu en 3D. Voilà, pas Xbox, mais pas loin.
Yes, alors comme tu l'as dit, ouais. Ah, vas-y, je t'en prie.
Non, je disais juste, Evoland 2, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir des évolutions techniques, on part sur des évolutions de gameplay. Là, on retrace l'histoire du jeu vidéo, dans un jeu vidéo toujours, mais à travers différents gameplay, shoot'em up, plateforme, etc., etc.
Yes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut un fonds de commerce, et c'est ça qui est assez terrible, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gamers qui se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'avoir un studio, parce que il faut bien bouffer, hein. Et comment ça se passe? En gros, tu te dis, parce que c'est un coup de poker en fait, t'as une mise de départ, tu travailles sur un jeu avec un fond, qui est sûrement perso, j'imagine, c'est des ça. Économies, et tu lances ton jeu. S'il marche, c'est très bien, t'en fais un second. S'il marche pas, rideau, quoi.
C'est ça. Alors à l'époque, on avait aussi pas mal de financement participatif. Ça a un peu descendu maintenant, la popularité de ces financements-là, du moins dans le jeu vidéo. Pour le jeu de plateau, c'est pas vrai du tout, hein. Il y a des exemples de Kickstarter, par exemple, qui cartonnent sur le jeu de plateau.
Ouais.
Mais simplement parce que le jeu de plateau, quand on te le vend sur le Kickstarter, il est déjà terminé, alors que le jeu vidéo, il y a encore tous les risques qui existent avant d'arriver à la fin de la prod. C'est pour ça que d'ailleurs que sur Kickstarter, il y a plein de jeux qui n'arrivent pas à terme.
Parce qu'on a eu plein d'exemples aussi de Kickstarter où ça s'est mal fini.
Oui, complètement.
Enfin,
ah oui, complètement.
Mighty, ouais. Bon, après, c'est pas un exemple, Mighty Knight. Moi, j'ai pas aimé du tout, alors que, voilà, ils nous proposaient un Megaman like et tout. Et
ah oui, ça y est, je, oui, je vois. Oui, oui, exact. Oui.
Il y a... Et qui est gratuit d'ailleurs, je gratuit, crois, ouais, sur PSN.
Il y a Monster Boy qui a carrément foiré son Kickstarter et, ouais, et qui sortira quand même sur Switch parce qu'ils ont trouvé d'autres financements. Mais oui, c'est très compliqué au départ.
Surtout en France, non? Ou parce qu'on entend souvent à l'étranger, genre au Canada ou au Québec, l'État donne vachement de financement. En France, c'est compliqué.
Alors,
ça?
Non, non, en France, t'as aussi des aides. Hein, t'as des crédits d'impôt, t'as toute forme d'aide qui te permettent quand même de survivre et d'essayer de planifier un projet.
Après, et oui, parce que c'est du long terme, quoi.
Ouais, complètement. Après, bien sûr, t'as les charges salariales qui sont. Voilà, faut bien payer des salaires. Et
oui.
Et ça, pour le coup, voilà, c'est incompressible, à moins de faire son jeu seul. Et même ceux qui font leur jeu seul. Alors, il y a Aurélien, j'ai plus son nom, celui qui a fait The Last Penelope. Voilà, qui a fait un très bon jeu, en plus encensé par la critique, et au final qui s'est très mal vendu, du moins sur PC. Donc voilà, c'est très compliqué, et pourtant il y a passé, je crois, 3 ans dessus.
Ça doit être terrible. Hein.
Ouais, c'est clair.
T'es, c'est ton bébé,
quand
quoi. Tu vois, parce
ouais, complètement.
Tu vois ton bébé qui est encensé en plus par la critique, et qu'au final les ventes derrière ça suit pas.
Eh ouais, mais ça, tu sais, entre la critique, le public, on en parlera après, mais c'est vrai qu'il y a tout. Ça arrive qu'il y ait des écarts, qu'il y ait des jeux qui plaisent aux professionnels et pas du tout au grand public, et vice versa. Hein.
Ou alors juste que, voilà, ils ont pas été. Il n'y a pas eu assez de com, ou voilà. C'est
et ça aussi, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est un vrai budget aussi, la com.
Ouais, alors c'est un vrai budget, beaucoup moins qu'avant, parce que maintenant on a tous les streamers.
Tu vois.
Les streamers, c'est un truc de malade.
Ah oui, ah non, mais c'est vrai finalement, c'est de la pub gratos, quoi.
Complètement, et ça peut même influencer sur le développement d'un jeu. Nous on partage les locaux par exemple avec Motion Twin. Ils ont eu quelques jours avant la sortie en early access de leur jeu Dead Cells. Ils ont eu un streamer chinois qui a fait donc un stream de Dead Cells et qui a cartonné en Chine. Et du coup, ils ont décidé de faire le jeu en chinois aussi.
Ah, tu vois.
Et
donc
ça leur a garanti des ventes. Voilà, c'est ça. Donc les streamers maintenant, c'est vraiment le the place to be, quoi. Alors après, on est bien sûr hyper content d'être relayé dans la presse quand tu topes des Rock Paper Shotgun et des Kotaku ou Canard PC quand t'as une double page, voilà, t'as
pas
de visibilité. Mais maintenant, c'est vrai que le plus gros vecteur de vente, c'est le stream, quoi.
Et ouais, non, mais c'est tellement ça. Et du coup, quand tu parles moi, ce que j'aimerais bien qu'on décrive aux auditeurs, c'est la vie d'un studio. Quand tu dis, voilà, quelqu'un, comme disait Wayne, c'est ton bébé et tout. Quand un seul gars travaille, on imagine qu'il met de côté un petit peu sa vie de famille et tout, s'il a des enfants et tout. Et on se fait toujours une image de vous, les développeurs, c'est genre les passionnés qui rentrent chez eux à minuit ou qui dorment dans des sacs de couchage dans le studio et tout. Non, mais c'est un peu comme ça, mais c'est...
Que... Alors ça, c'est arrivé. C'est arrivé pas à Chiron, mais ça arrive dans
le
certaines boîtes.
Le fameux crunch.
Le crunch, voilà. Par contre, le crunch, en fait, c'est surtout un aveu d'échec. Hein. C'est surtout que t'as pas réussi à tenir les délais.
Donc il faut bombarder.
Et, ouais, voilà. Et donc t'es obligé. Et surtout, comment dire, quand tu fais un crunch, c'est que t'as une deadline. Et la deadline, généralement, elle est imposée par un éditeur. À Shiro, on a la chance d'être notre propre éditeur, Motion Twin aussi d'ailleurs. Enfin, il y a plein de studios qui sont leur propre éditeur maintenant, surtout grâce aux plateformes de téléchargement comme Steam ou GOG, etc.
On peut
se permettre d'être notre propre éditeur, donc on a des deadlines moins serrées, ou du moins on est beaucoup plus souple non seulement sur le choix de la deadline, mais sur le contenu. Voilà, en gros, on n'a pas le temps. Si t'as pas le temps de finir ton jeu, bah t'enlèves ton niveau, je sais pas, t'enlèves du contenu, quoi, simplement.
Yes. Et du coup, comment ça se passe? Admettons, tu fais ton jeu, tu veux le proposer au grand public. Mm-hmm. Il y a deux manières actuellement, il y en a pas 50. Il y a sortir le jeu en boîte, qui doit coûter une petite fortune, parce que j'imagine que... Alors, je sais pas du tout comment ça se passe, mais c'est peut-être idiot, je sais pas si tu sais, mais faut faire comment? Parce qu'il faut le faire presser en CD, faut acheter des boîtes, du papier pour les jaquettes, ça se passe comment?
Généralement, t'as un éditeur qui fait ça.
Quand t'es indépendant, par exemple.
T'as des boîtes qui font ça, Nicalis par exemple, Dotemu, enfin voilà, c'est des éditeurs qui ont un réseau de distribution, donc ils ont la fabrication, ils ont la distribution, c'est-à-dire qu'ils peuvent les placer dans les Fnac, Micromania, etc. Maintenant, forcément, tu passes par un éditeur tierce, donc tes marges sont réduites.
Et oui, il prend un petit billet, le gars.
Exactement. Ouais. Et par rapport aux plateformes de téléchargement, le nombre de ventes, c'est quasiment rien. Enfin, c'est pas quasiment, c'est, on va dire, allez, à la louche, mais 10% quoi. Après, ça dépend.
Que le studio touche ?
Non, je te parle de chiffre de vente. C'est-à-dire
tu
vas avoir 10% de la population voilà,
qui
va acheter en physique et 90% en démat.
Ah, c'est incroyable.
Ah, mais c'est énorme, on se rend pas compte.
Alors,
après,
ça dépend encore des titres. Évidemment, un FIFA, je pense qu'il va être pris en physique. Mais sur du jeu indé, en tout cas, je parle vraiment pour le jeu indé. Si on devait faire du physique, c'est vraiment minime quoi.
D'accord. Et du coup, comment on fait pour se retrouver sur Steam ou sur GOG, des plateformes comme ça ? Tu les contactes ? Comment ça se passe ?
Alors, à l'époque, tu soumettais ton projet, il y avait le green light. En fait, c'était la communauté qui votait sur, s'ils voulaient voir ton jeu ou pas. Et là, t'avais des mises en avant Steam. Maintenant, c'est un peu moins le cas. T'as un portail simplement de, faut bien sûr contacter Steam, etc. Proposer ton jeu. Il y a des phases de test, etc. Et là, c'est dans le shop, en fait.
Ok, donc c'est quand même sur Steam, c'est quand même le public qui va décider quand même s'il aime pas ton jeu. En fait, ça se trouve, t'as.
Alors c'était pour Green Knight, hein, c'était à l'époque. Je crois que Green Knight n'existe plus maintenant. Steam a vraiment. Pardon.
Non, ça existe plus. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Enfin, moi, je trouve que c'est un peu dommage.
Ouais, parce qu'il y avait une sélection du coup.
Une sélection. Et là, maintenant, c'est à toi, au joueur, de retrouver un petit peu le jeu que tu veux. Et c'est un peu, grâce au, on y retourne, mais les streamers, quoi. C'est-à-dire que tu vas voir des vidéos, tu vas aller sur YouTube pour te dire, mais ce jeu, il vaut quoi ? Et donc, tu regardes et si ça te plaît, tu le prends. Donc, c'est un peu des merdes de toi maintenant.
T'imagines le poids qu'on a, PM, quand il a su qu'on te recevait ce soir, il a acheté le jeu. Parce que mardi dernier.
Dès le lendemain.
Non mais c'est vrai en plus. Mardi dernier il hésitait, le mercredi il l'a acheté.
Ben merci.
Donc un petit billet en partant, c'est rien.
J'espère que t'as aimé au moins.
Mais, ouais, j'ai grave kiffé.
Mais on va en parler dans un instant. Et du coup, alors quand t'es sur Steam, parce qu'on se posait la question la semaine dernière, et si vous avez des questions les gars, allez-y, parce que moi je suis en monologue avec Étienne et tout. Moi je kiffe. Voilà, j'apprends plein de trucs. Sur Steam, ça paye bien ? Ou on imagine que c'est une grosse plateforme, c'est Valve qui est quand même, c'est un rouleau compresseur. C'est quoi, c'est 90-10 ou...
Non, en fait quand tu enlèves les évidemment la part de Steam, les taux de conversion, parce
qui
que
qui est combien la part de Steam sans discrétion?
Je veux te dire le global en fait. Ouais. Voilà, quand t'enlèves les frais de conversion, etc., t'arrives à 70% pour le développeur et 30% pour Steam à peu près.
Bon, ça va.
Après, il y a d'autres plateformes qui sont plus ou moins généreuses, mais globalement, c'est à peu près ça. De mémoire, ça doit être à peu près pareil sur Apple, si je dis pas de bêtises.
Ok. Tiens, il y a Estors qui fait bravo en tout cas pour ses bonnes critiques du jeu.
Merci.
Je t'envoie les applauses. Et donc, du coup, on parle de Nosegard. Vous avez d'autres questions, peut-être, sur le fonctionnement? Franchement, en interne d'un studio, moi, je suis ultra curieux de tout ça, quoi.
Moi, je serais curieux parce que je suis pas du tout joueur PC, donc je passe pas par Steam. Et en fait, je voudrais savoir aujourd'hui qu'est-ce qui bloque un studio comme le vôtre pour placer, être en téléchargement sur PSN, Xbox Live ou même sur la Switch.
Ah oui, tiens, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui fait que le jeu, il sort sur PC et pas sur console, par exemple ?
Alors, je pense qu'il y a une question de coût derrière qui est demandée par ces gens-là. Mais c'est vrai que moi, par exemple, les volants, on m'en a toujours parlé. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne joue pas sur PC. Et je pense que sur mon PC, je pense que ce serait un peu la galère. Mais je serais curieux de le tester. Ça serait un jeu que je serais... curieux de tester, envie de tester sur Switch par exemple.
Alors il y a plusieurs choses. Déjà il y a la part du constructeur. Le constructeur Sony, Microsoft, etc., Nintendo prend forcément une part plus importante que Steam. Il y a aussi ce qu'on appelle les TRC, comme je disais, le protocole de validation du constructeur. Faut mettre ton jeu aux normes du constructeur globalement, c'est-à-dire prévoir des menus spécifiques, etc.
Des trophées, des succès, j'imagine. Ouais.
Ça prend du temps. Alors que sur Steam, c'est, tu mets 10 trophées ou t'en mets 100, Steam s'en fout, hein, globalement.
Ouais, alors que c'est vrai que quand on parle des trophées ou des succès sur, je crois que c'est Sony et Microsoft qui décident et qui disent plus le jeu coûte cher.
Ouais, plus il y a de succès en fait. C'est des critères, hein, c'est ce que ça rentre dans les TRC justement. Si ton jeu a tant de durée de vie, il faut faire tant de missions, etc. Enfin, tant de succès.
Tant de trophées, etc. Toi, c'est dingue ça. Toi, on est loin d'imaginer ça quand tu dis t'as une liste des fois de trophées pas possible, et c'est parce que sur Skyrim t'auras peut-être plus de trophées, t'auras plus de trophées que sur un jeu qui dure peut-être 3-4 heures quoi.
C'est ça.
Et c'est eux qui décident.
Ouais. Et le dernier point, c'est surtout les contraintes techniques de la console. La console c'est cool parce que du coup c'est un circuit fermé, donc tu sais où tu vas quoi. En termes de développement, parfois ton jeu rentre pas dans les clous quoi, carrément. Donc Switch, qui est la console techniquement la moins avancée des trois, Voilà, c'est très compliqué de faire un jeu sur Switch malgré tout, parce qu'on passe par des... Enfin bon, je vais pas rentrer dans les techniques, mais
on va en parler justement, mais, il y a un truc qui m'intrigue.
Il y a une mise au format qui est un peu compliquée parfois, et voilà.
Alors, juste dernière question, vas-y, du coup, qu'Evoland a été le succès quand même du studio, le 1 comme le 2, ouais. Qui est sorti il y a un petit moment maintenant, est-ce que pour toi ça serait possible qu'il sorte en téléchargement sur les consoles?
Ah, merde, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais...
Parce que alors moi, honnêtement, moi
on m'a toujours dit un peut-être, ça veut dire oui.
Un peut-être, ça veut peut-être dire oui.
Parce que moi, voilà.
Est-ce
moi,
que tu veux que j'envoie le spoiler alerte? Ça mais... reste entre nous.
Oui.
Non, mais c'est vrai qu'Étienne en a parlé.
Mais voilà, il y a eu
sur RGB tout ça, de son jeu, d'Evoland, tout ça. Et moi,
ça serait génial sur Switch.
Et voilà, moi, je me suis dit un jour peut-être qu'il va me le sortir sur Switch.
En plus, ça s'y prête bien.
Il y a des. On a fait le portage sur smartphone.
Ah ouais.
Oui.
Putain, mais je vais le prendre direct.
Et Evoland 2 est sorti le mois dernier sur smartphone.
Yes.
Et Evoland 1 est sorti déjà depuis quelques temps, enfin plusieurs mois. Et ouais, on est en train de bosser dessus, mais par contre, je peux pas annoncer de date parce que voilà, on découvre aussi nous les consoles. Hein. Shirogame a encore jamais fait de jeu console. On a une techno qui est propriétaire, qui est Axe. On travaille aussi d'accord avec Motion Twin. Donc qui eux font Dead Cells et qui vont aussi le sortir sur console, sur Switch pour le coup, et donc on partage aussi nos technos, hein. Faut savoir que Axe c'est un langage gratuit, enfin c'est open source.
D'accord.
Donc voilà, tu fais ton jeu en Axe, globalement tu payes pas de droits à personne et c'est cool. Et donc voilà, donc on partage un peu nos technos quoi, et donc eux sont en train de faire Dead Cells sur console, et donc on profite un peu de ça aussi pour on est en train de
pour porter
peut-être Evoland 1 et 2 sur console.
Alors il y a plein de, ça fait plaisir, j'envoie les applaudissements. Il y a plein de réactions là sur le chat pour le doublage. On va en parler juste après. Moi j'ai une question qui me taraude. On entend toujours parler de dev kit.
Ouais.
À quoi ça ressemble? On voit toujours des photos un petit peu volées, tu sais, d'une console, sauf que tiens, elle est passée par Beaubourg la truc. Toi, il y a des câbles, des tuyaux, des trucs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dev kit en vrai?
Alors, un dev kit, c'est ni plus moins qu'une console en un peu plus gros. Alors après, ouais. Les constructeurs se lâchent ou non au niveau du design. Tu vois, le dev kit Xbox, par exemple, c'est une super Xbox blanche avec marqué, je sais plus, HD4. Enfin bon,
d'accord.
Il est super classe, quoi. Le dev kit Switch, c'est juste une Switch avec un espèce de gros moteur derrière sur lequel tu viens brancher une Alim Wii U, tu vois.
D'accord.
Donc, tu peux le taper hein, dans dev kit. Tu mets n'importe quelle console sur eBay, t'as toujours quelqu'un qui t'envoie.
C'est vrai.
Ouais, des vieux. Mais dev
à kit, quoi ça peut te servir?
Alors, il y a
pour la collection, je suppose.
Ouais, pour la collection. Voilà. Après, il y a certains dev kit où tu peux toujours développer dessus, alors sur les premières consoles surtout, enfin
oui,
genre PlayStation 2 peut-être, mais en trichant un peu.
Xbox, il y a des gens qui arrivent toujours hein.
Ouais,
d'accord.
C'est pour la communauté homebrew aussi certainement, non?
Ouais,
ils
c'est ça,
peut-être des trucs dessus, ouais.
Après faut savoir que chez Nintendo depuis très longtemps en fait les dev kits t'appartiennent pas, c'est-à-dire que tu les payes mais ils appartiennent toujours à Nintendo.
Donc, ah, ils les louent en fait.
Ouais, c'est ça, mais faut tu les racks et faut les renvoyer ensuite.
Et ça coûte combien juste pour comme ça?
Alors là, pour
si
le coup,
tu peux le dire.
Non, c'est, je sais pas du tout. Donc, okay. Je pourrais vraiment pas te dire. Je sais pas. Honnêtement, okay. Le seul truc que je sais, c'est que chez Nintendo, par exemple, je sais qu'ils sont verrouillés les kits. C'est-à-dire que ils marchent avec une IP que tu déclares, et donc tu vois, même si t'es en rate de ton PC, c'est toute une procédure pour repasser le dev kit sur un autre PC. Donc
ah ouais.
Donc,
c'est
tu vois,
Nintendo.
C'est,
quoi.
Voilà, c'est pas en chopant un dev kit sur eBay que tu vas pouvoir faire ton jeu.
Ouais.
Ton jeu
ils contrôlent quand même le truc, quoi.
Oui, complètement.
Parce qu'on imagine. Alors moi, un truc qui me plaisait beaucoup, c'est quand t'es sorti Mario Maker. Parce que Mario Maker, moi je me suis dit, pouah, ça se trouve, tu vois, c'est comme ça que ça marche. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vulgarise un petit peu, parce qu'on a sûrement des auditeurs qui, voilà, qui kiffent le jeu vidéo, mais qui aimeraient peut-être connaître un peu les ficelles et tout. Et quand tu vois Mario Maker, tu dis, pouah, ça se trouve, c'est comme ça que ça marche. Le dev kit, moi je l'imagine comme ça, genre un écran. Je sais pas, t'as un décor et puis tu places tes petits personnages, je sais pas, tu...
Non, le dev kit, en fait, c'est juste la console, mais qui est reliée à un PC, ni plus ni moins. Et c'est, ça va te servir avec tout un système de programme qui est filé par Nintendo, Sony, etc., par les constructeurs, et qui va te permettre de faire tourner ton jeu sur la console, c'est tout. Après, tout ce qui est édition de niveau et tout ça, ça c'est en interne, tu le fais sur les outils que tu veux, Unreal, je sais pas moi, UE4, enfin, Unity, voilà.
Yes.
Voilà. Mais non, le dev kit c'est ni plus ni moins que la console en un peu plus boostée pour pouvoir faire tourner ton jeu correctement, debug, c'est-à-dire en pouvant checker en fait frame par frame ce qui se passe. Voilà.
Donc frame par frame, c'est donc image par
image. Image par image, ça, tu vas, ça va te dire, bah voilà, telle image, bah, on balance le brouillard par exemple, à telle image, on balance les personnages, et tu vas pouvoir voir où est-ce qu'il y a un bug par exemple. Je sais pas, moi, si tes persos, ils sont, il y a 100 fois trop de triangles dedans, enfin, ils sont ultra trop détaillés pour la console, ça va te dire, bah non, l'image 14, là, tu vois, t'as trop de persos, tu peux en zapper un, ça va tourner quoi.
Tu vois, et c'est intéressant quand même, parce
c'est ce qu'ils ont pas fait dans Kingdom Come Deliverance.
Alors, bah tiens, on a l'avis d'un professionnel, t'en as entendu parler de ce jeu, c'est évident, non?
Alors, vite fait, mais vraiment.
Ouais. Parce que c'est une tanasse. Bon, pour tout le monde, il est sorti beaucoup trop tôt. Comment ça se passe? Après, on parle de Nosgard, hein, sans déconner. Mais non, mais j'ai des tonnes de questions. Il y en a une autre aussi sur le chat qu'il faut que je te pose après. Mais comment ça se passe les phases de debug? Le jeu, il est bon. Tu te dis, c'est cool. Là, tu l'envoies en playtest. Donc, il y a des gens qui y jouent.
Ouais, il y a plusieurs phases de playtest. Il y a d'abord une phase que tu fais en interne. Forcément, dès que tu fais tes trucs, tu modélises tes armes, tes maisons, etc. Bah, tu les places dans le jeu. Tu vois comment ça tourne. Ça, c'est déjà un premier test.
Voir si ça rame pas, tu veux dire?
Ouais, c'est si, ça. Voir si c'est pas trop détaillé. Déjà, comment ça rend à l'écran, si ça a une bonne tronche ou pas. Ça, c'est le premier test. Deuxième test, évidemment, il va être fait en interne quand même. On fait un run complet, un ou plusieurs, évidemment. Si c'est du multi, on joue entre nous pour voir comment ça marche, l'équilibrage et tout ça. Ça, c'est vraiment au niveau jeu, hein, conception. Pur. Et après il y a tout ce qui est phase de bug. Alors évidemment avec les premiers tests on a des bugs qui reviennent, donc on les corrige tant que faire se peut. Et après deux choses l'une, ou comme nous t'es sorti en early access, donc tu vends ton jeu,
la communauté est prévenue que ça
peut être bugué, ouais. Et là du coup tu récupères tous les bugs et tu les traites rapidement.
Et finalement, c'est la communauté qui sert de...
Complètement.
Ouais.
Ou alors tu fais appel... Ou alors tu as ton studio de test en interne. Ubisoft, ils ont à Bordeaux, ils ont leur studio de test.
Ouais.
Ou alors tu fais appel à une boîte qui fait que du test, une boîte externe, genre Bug Tracker par exemple. Ils font que ça. Voilà, ils ont plein de personnes qui ont testé ton jeu de A à Z.
Et c'est leur job. Ouais, les gars, toute la journée, putain, c'est chaud.
Ils ont des grilles de tests avec des protocoles et ils te renvoient, tel niveau, là ça bug parce que tu passes au travers du mur et puis voilà.
Putain, c'est ouf ça, tu vois.
Pour Kingdom, ils ont oublié carrément cette phase et ils ont
dit,
c'est bon, le
ou
jeu.
Alors,
pas
les testeurs ont fait la fête ce jour-là.
Je pense qu'il y a. Ouais, c'est chaud quand même.
Mais ils ont fait autre chose.
Alors, juste avant qu'on parle de Nosgard rapidement, il y a une question qui revient beaucoup. C'est des gens qui se plaignent que beaucoup de studios français sortent les jeux en anglais. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que les Anglais sont moins chers que nous? Non, ils jouent mieux la comédie?
Pas du tout. Déjà, c'est une question de marché. Clairement, tu fais ton jeu en anglais, tu touches plus ou moins à l'international.
Oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai que ça se tient.
Je dis plus ou moins parce que ça touche pas l'Asie. L'Asie, c'est un marché complètement ultra verrouillé, quoi.
Ah ouais?
Ouais. Alors, le Japon, plus que tout.
Quand tu les entends parler anglais, tu comprends, ouais. Ils parlent comme nous, en fait, même en termes de
style de jeu, etc. Enfin, ouais. Ils ont vraiment un catalogue spécifique. Pareil pour la Chine, les Chinois jouent aux jeux chinois, quoi. C'est un peu comme ça. Et du coup, alors bon, c'est cool quand t'arrives à percer ce marché, mais globalement, vaut mieux d'abord faire son jeu en anglais. Après, moi, je suis premier à pester quand le jeu est pas en français, parce que honnêtement, tu connais les coûts de traduction. Dans une prod, c'est rien. Mais quand je dis rien, honnêtement, si ton jeu il a masse de texte, tu vas peut-être être à 5% de ton budget prod qui est de la traduction.
Quand tu dis que ça coûte rien, parfois ça s'entend. Parce qu'il y a des
alors,
fois.
Je parle juste de la trad, je parle pas du doublage. Hein,
de l'acting ou du.
Parce que le doublage c'est encore autre chose. Là pour le coup, ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut payer des acteurs.
Ouais.
Plus t'as de voix, plus tu payes d'acteurs aussi. Donc ça peut commencer à devenir cher. Mais maintenant, pour ce qui est juste traduction, tu vois, tous les tacticals et tout ça qui sont pas traduits en français, ça mérite le poil. Quoi, parce que ça coûte vraiment rien.
Moi aussi, ça mérite le poil.
Qu'en plus, c'est des jeux qui sont plutôt compliqués. Donc t'as des termes techniques. Moi, ça me fait beaucoup penser à War Thunder qui avait tout pour me plaire. Et dès le départ, c'est en anglais, en free-to-play sur PlayStation 4. Sauf que moi, les termes d'aviation, les têtes brûlées, c'était il y a longtemps. Et puis, c'est chaud, quoi. C'est des termes d'aviation en anglais et tout.
Je pense à tous ces Disgaea.
Oui, c'est ça, tous les tacticals.
Tu comprends pas, parce qu'en plus, il y a un humour particulier.
Parle bien dans ton micro, mon poulet,
s'il te plaît. Il y a un humour particulier, il y a un scénario, qui sort un peu de l'ordinaire. Alors je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas traduit en français.
Ils réduisent les coûts simplement.
Mais là, trop réduire les coûts, à la fin, le jeu, il y a que les.
Après les tacticals, surtout en France, c'est relativement niche, donc
c'est vrai aussi.
Ils savent qu'ils. Faut savoir, t'as une espèce de courbe. Plus tu vas cibler un public niche, plus ce public est prêt à mettre d'argent en fait. Donc quand tu cibles bien un public, tu peux mettre un peu plus dans ton jeu. Mais bon, en l'occurrence en France, le tactical c'est un peu limité quand même.
Yes, alors il y a Panax, attends, j'arrive pas à lire, Panax Vac qui fait bah faut devenir anglophone, bienvenue au 21e siècle, faut s'ouvrir au monde. Quelque part, il a pas tort, mais ça fait
ouais, voilà, c'est
ça,
vrai, mais bon.
Ça fait 1000 ans que les jeux vidéo, on a tous plus ou moins appris l'anglais en jouant au début sur Super NES et tout, il y avait des jeux, c'était une tanasse en vrai hein. Tu comprenais pas tout quoi, il y avait surtout des tartines de texte et non mais c'est vrai qu'on était petits 6 ou 7 ans
tous les finals ouais étaient en anglais à l'époque.
Il y a même jusqu'au eu des fan trad d'ailleurs hein, sur Final Fantasy c'était sur le 6 hein, il y a eu une fan trad qui était sortie à la fin des années 90 parce que le machin il avait jamais été traduit en français quoi.
Bah c'est ça, tu vois, il y a ce Grog qui nous dit Disgaea me tentait bien mais comme c'était du tactical et qu'en anglais j'ai passé mon chemin. Donc peut-être qu'il s'ouvre plus au marché peut-être mondial, mais tu vois en France où on est peut-être des feignants aussi de ça.
Non, je pense que c'est vraiment pour réduire les coûts hein, en l'occurrence.
Enfin, je veux dire des feignants d'apprendre l'anglais, tu vois.
Ah oui,
dire.
D'accord, ok.
Ouais.
D'ailleurs, si tu veux une anecdote pour ce qui est de la trad, quand on a sorti Evoland, évidemment, on a regardé tout ce qui est des Pirates Bay, etc. On a vu que le jeu était en chinois. Et bah donc, c'est de bonne guerre, on a évidemment récupéré la trad chinois pour la mettre officiellement dans le jeu.
Bah écoute, carrément.
Tant que faire.
Yes, on parle un petit peu de Nosegard.
Allez.
Alors moi j'ai des petites questions à te poser. Comment ça se passe dans un studio une fois que t'as sorti un jeu Evoland 2 entre autres et que tu te dis allez on fait un nouveau jeu. Comment ça se passe? Il y a une table ronde où tu dis on part sur quel style on part sur quel style? Comment on...
Alors ça dépend complètement du studio. Là je vais vraiment parler pour Shiro. Northgard c'est un jeu que comment dire que Nico avait très envie de faire. Nico et Seb voilà c'est plutôt des joueurs PC. On a aussi remarqué ils ont remarqué qu'il y avait un vide un peu de cette lore, enfin de ce style de jeu dans le paysage vidéoludique actuel. Donc on s'est dit pourquoi pas. Mais en même temps, on voulait pas proposer juste un remake de cette lore, fallait en proposer quelque chose un peu nouveau. Donc voilà, on voulait pas non plus un RTS qui soit au speed click, tu vois, comme StarCraft.
Ouais.
Donc il y a eu ce système de tuiles, etc. Donc voilà, c'est né d'une table ronde, c'est sûr. Et même pour les projets à venir, c'est toujours de concert comme ça.
Yes, mais ça c'est hyper intéressant en vrai parce que tu te dis toujours, je sais pas, ça paraît tellement évident quand t'as le jeu, tu te dis, je sais pas comment exprimer ça, mais finalement il y a gavé de réflexion derrière, tu vois, le chara-design. J'imagine qu'il y a des tonnes de personnages qui sont dessinés bien avant pour choisir un peu celui qui plaît le plus, qui...
C'est pas aussi systématique que ça. Peut-être dans les grosses boîtes, c'est sûr. Il y a des retakes, hein, notamment sur Overwatch. Hein, ils font le modèle 3D, puis retouchent par-dessus en 2D, et puis ils refont le modèle 3D, etc. Nous, c'est pas aussi itératif que ça. Ça part d'abord d'une idée, d'un concept. On s'est dit, voilà, on veut faire un jeu de stratégie avec un pacing, donc un rythme de jeu relativement lent. On veut qu'il y ait l'aspect aussi un peu contemplation dans le jeu, enfin côté content de créer ta ville. Et après on voit aussi en fonction de la morphologie de l'équipe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme graphiste, qu'est-ce qu'on a comme développeur.
Ouais, tu te lances pas dans un truc peut-être trop...
C'est ça,
ouais.
Et surtout, tu vois par exemple, sur les premières phases de la prod, dans les premiers temps, Nico, il a développé, c'était lui qui était développeur en chef, donc il a développé son gameplay en 2D. Donc il existe une proto-version de Northgard qui est complètement en pixel art en fait.
D'accord. C'est marrant ça.
Et nous, Jérémy et moi, on a... Donc Jérémy c'est le concept artiste de Shiro Game. Et moi-même, on a évolué. Donc on a travaillé sur des environnements, sur des setups. Est-ce que ça va se passer dans la Grèce antique, dans un univers subaquatique, je sais pas. Donc voilà, on a proposé plein de trucs. L'univers viking, c'est ce qui semblait être le plus porteur. On voulait pas du Medfan, pourtant le Medfan c'est ce qui est globalement garanti sur Steam.
Alors c'est quoi que t'appelles le Medfan?
Medieval Fantastic, pardon.
D'accord, ok.
Voilà, yes. Medieval Fantastic, on sait que une code part de vente relativement assurée sur Steam.
Enfin, même sur console, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Il y avait, comment il s'appelait ce jeu? Il y en avait un, je l'ai plus en tête, mais qui était exactement comme ça, quoi. On pouvait y jouer en multi, en plus on l'a vu gratuit sur le PSN il y a quelques mois.
Un jeu de stratégie?
C'était pas un jeu de stratégie, mais c'était un peu un Diablo-like, tu vois, mais c'était un peu dans le style. C'était encore médiéval fantastique, quoi.
Oui, complètement. Hein.
C'est vrai que c'est un. On en bouffe quand même, hein.
Ouais.
Il y a Game of Thrones hein, qui est passé par là, hein.
Exactement.
Et tu crois que c'est lié?
Oui,
remarque ça, oui.
Bah, on était tous fans de la série déjà, et. Donc voilà, et puis il y a eu la série Viking après, donc on s'est dit, bon.
Voilà.
C'est le King là qui.
Parle bien dans ton micro, mon poulet. Désolé pour ceux qui nous rejoignent. On a toujours la table de mixage de Vercingétorix. On a eu des petits problèmes de stream au début d'émission. Le PC a été reboot. Le temps qu'on réinstalle tout et tout, le début d'émission était un petit peu foufou. Et là, on est plus nombreux que prévu finalement. Et donc, en fait, sur cette table, on peut pas brancher autant de micros qu'avant. Donc, ils se le font tourner un petit peu. C'est pour ça que de temps en temps, vous les entendez un petit peu de loin et tout ça. Yes, alors, je sais pas. PM, je vais pas m'y faire.
Ouais.
Toi qui as joué au jeu, est-ce que t'as des petits trucs à nous raconter un peu? Parce que moi, j'y ai joué, mais très peu. Vu que
moi aussi, c'était vite fait. Ouais. Bah, déjà.
Avant qu'on parle de ça, dis-moi. Moi, j'ai pas du tout compris c'était quoi le jeu. Est-ce que Etienne pourrait nous faire un.
Ah oui,
on
exact.
En a pas du tout parlé. Moi, je sais
un
pas
petit
ce
pitch.
Que c'est.
Allez, vas-y.
Allez, un petit pitch. Donc, c'est un jeu de stratégie en temps réel dans lequel on va être amené à faire prospérer un village. On a des vikings en fait, voilà, dans un univers viking. Donc on a des vikings qui ont débarqué sur une terre plus ou moins inconnue et on va devoir composer avec ces ressources, les ressources du sol, donc le bois, etc., pour faire prospérer son village et éventuellement aller conquérir des territoires adverses. Voilà.
Okay. Yes, c'est bon.
Ah ben merci Etienne, c'est pas au courant.
Alors PM, est-ce que t'as des petits trucs à nous dire? Qu'est-ce que t'en as pensé?
J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors déjà, il faut savoir, moi c'est mon tout premier jeu de stratégie, parce que effectivement jusqu'ici, moi j'étais vraiment joueur très console, voilà, Metroidvania, platformer et compagnie. Donc là, je me suis dit, allez, vas-y, j'ai envie de me faire un petit jeu de stratégie. Et j'ai vu un test, c'était sur Gamekult, il me semble, parce que bon, quand même le jeu, en plus, il se prend des bonnes critiques, hein, quand même.
Ouais, on est très content.
Ouais. Et je me suis dit, allez, vas-y, je saute le pas. Je l'ai vu sur Steam, je l'ai chopé, et je trouve ça mais ultra frais, quoi, en fait.
Je trouve ça frais.
Ah mais c'est méga frais. Non, franchement, c'est super sympa. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas que tu parlais de contemplation tout à l'heure et même que tu dis aussi que tu jouais Animal Crossing parce que franchement, c'est ça quoi. Des fois, t'as juste envie de t'arrêter et puis juste les laisser bosser et puis regarder quoi en fait.
C'est ça qui est assez super dans ce type de jeu, c'est voilà, en plus tu peux gérer le temps, tu peux l'accélérer ou plus ou moins et tu les regardes. Pout, 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 pout. Et non mais c'est vrai et ça c'est assez génial quoi. C'est comme dans les SimCity et compagnie et voilà, tu les vois créer, c'est assez cool quoi. Ouais. Il y a le petit côté pas maison de poupée mais c'est un god ça, mode ouais. Un peu hein, tu sais, tu vois l'univers comme si t'étais un peu dieu et tu les vois c'est cool ouais.
Peter Molineux en moins mais ouais effectivement.
Seb et Nico sont des gros joueurs de Civilization donc voilà, il y avait cette envie aussi de retranscrire un petit peu ce délire là voilà, mais par contre pas le ce qui nous intéresse pas c'était le tour par tour, c'est un peu relou donc on a quand même voulu un truc en temps réel et du coup on a trouvé le système de tuiles parce que voilà, la progression par rapport à un Age of the Empire par exemple, ça il va y avoir du Fog of War mais ça va pas se déblayer facilement quoi, il faut conquérir tuile par tuile ton un peu comme dans un jeu Risk en fait ton territoire. Voilà.
Yes, tiens, on embrasse Manu Dog pour le follow. Salut à toi. Merci beaucoup. Welcome. Yes, juste comme ça parce qu'on en parlait récemment. Toi qui fais partie d'un studio indépendant. Alors c'est peut-être pas remarque quand tu veux tu peux, mais est-ce que en tant que studio indé tu serais parfois tenté par les microtransactions par exemple, ou est-ce que toi en tant que joueur déjà est-ce que t'es consommateur de ces microtransactions
quand c'est cosmétique ouais, que je veux vraiment un skin pour un perso oui je lâche le billet maintenant faut voir que les microtransactions c'est pas quelque chose de forcément mal parce que derrière on imagine quand même que le jeu est gratuit. Donc ça veut dire aussi ouvrir ton jeu à un plus grand public. Là pour Northgard, bon c'était pas le cas parce que le jeu stratégie c'est quand même malgré tout un public niche. Donc on avait très peu d'intérêt à le faire en free to play par exemple. Mais voilà, quand il y a microtransactions, généralement on pense d'abord à free to play et en soi c'est de l'accessibilité quoi. Voilà, donc oui on est tenté. Maintenant ça veut pas dire easy money hein. C'est pas du cash qui va rentrer facilement. Avant ça il faut qu'il y ait des taux de conversion qui soient cool. C'est-à-dire le taux de conversion c'est globalement le nombre de gens qui vont télécharger ton jeu et le nombre de gens qui vont passer à la case derrière quoi. Donc voilà, c'est très dur d'avoir un taux de conversion très propre et donc de faire vivre ton jeu avec ça.
Et ouais, c'est pas simple hein. Voyez, on apprend des choses hein. Franchement c'est hyper intéressant. Voilà, c'est vrai que on se rend pas compte en vrai, tu vois, pour parler de Kingdom Come, c'est vrai qu'il en prend plein la tronche et tout, mais on se rend pas compte peut-être aussi du taf qu'il y a derrière. C'est vrai qu'on l'a beaucoup charrié. Moi, on est toujours en attente de la mise à jour, hein, d'ailleurs. Hein. Mais comment ça se passe, d'ailleurs, quand tu... Alors, nous, on en sait un peu quelque chose avec l'émission. Il y a des messages qui sont dithyrambiques, parfois, qui sont super sur l'émission. Il y en a qui sont très peu bavards et qui se résument à des lettres, genre FDP. Tu vois, il y a des commentaires, il y a tout, il y a à boire et à manger. comment ça se passe quand toi tu bosses pendant des années sur un jeu et que bah là pour le coup c'est le cas, vous avez des critiques de ouf, mais quand parfois tu sais les critiques sont un peu dures et tout, comment tu vis ça, tu le prends personnellement et tu
vas dis... dans les toilettes et tu pleures.
Oh, c'est ça, c'est en PLS.
Tu t'enfermes.
tout le studio va pleurer dans les
en
toilettes.
En boule sous la douche.
Mon Dieu. Il y a deux choses déjà. Il y a les critiques de la part des journalistes. Ça c'est tu le gères comme tu peux, hein, on va dire. Au pire tu dis Osef. Mais ouais. Mais non, ce qui est fort quand tu fais une early access, c'est que t'as les retours des joueurs directement en fait, que ce soit sur le forum Steam ou directement dans ta boîte mail. Donc pour ça, on a un community manager hein, qui s'appelle Adrien et que j'embrasse très fort parce que.
Et c'est lui qui voilà, qui fait punching ball.
C'est notre pare-feu. Donc c'est lui qui va dealer avec les joueurs. Déjà, enfin c'est lui qui va servir d'interface avec les joueurs, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire c'est lui aussi qui va filer les patch notes avec les mises à jour. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la mise à jour, les équilibrages, tout ça. Donc, il est très à l'écoute des joueurs et les joueurs sont très à l'écoute de lui justement. Ça va dans les deux sens. Et du coup, bah, celui qui prend les critiques bonnes ou mauvaises. Alors bon, il fait le tri. Après, quand il y a des mauvaises critiques qui sont récurrentes, on essaie quand même de voir ce qui peut hiquer, quoi. Enfin, où est le problème, tu vois. Quand on
oui,
dit, non,
ouais,
mais
faut
là,
être réactif,
niveau
quoi.
3, il est relou. Donc, quand il y a des rage kicks que sur niveau 3, on se dit, bon, on va peut-être toucher le niveau 3, tu vois.
Ouais, ça se tient, ouais.
Donc voilà, il y a pas que du mauvais dans les mauvaises critiques, des fois, et il y a à boire et à manger, un peu comme dans tout. Hein.
Ouais,
et après,
ouais.
Pour les bonnes critiques, on est content, forcément.
Ben oui, carrément. Vas-y, Wayne, je crois que tu voulais dire quelque chose.
Et aujourd'hui, vous êtes content des retombées depuis la sortie du jeu ou, je veux dire là, je parle vraiment d'un côté financier. Est-ce que pour vous, c'est ce que vous attendiez? Vous avez fait plus? Vous êtes en dessous de ce que vous attendiez?
Alors, on attendait... alors, comment dire bah Nicolas et Seb, on sont des pros du jeu vidéo. Hein, comme je dis, Seb, il venait d'Ansisoft. Nico, il avait déjà fait Motion Twin avant. Donc, c'est des pros du jeu vidéo. Ils avaient quand même des risques mesurés. C'est-à-dire qu'ils savaient que... Avec tant de durée de prod, on pouvait avoir espéré au moins, enfin sur un jeu de qualité comme ça, avoir tant de chiffres.
Ouais.
Et en fait, c'est Early Access qui a vraiment cartonné et qui nous a décidé à faire un jeu de plus grande ampleur en fait. C'est-à-dire qu'au départ, Northgard, c'était pas forcément prévu qu'il y ait la campagne ou le versus. On s'est dit il y aura peut-être un des deux, enfin le versus le multi. Donc on s'est dit il y aura peut-être un des deux. Voilà, quand on a vu l'engouement qu'il y avait sur le Early Access, là on s'est dit bah c'est carrément le jeu. Il faut qu'il y ait une plus grande ampleur. Donc là, on a mis un peu plus de budget sur le jeu, un peu plus de temps de prod. On a recruté aussi des gens et voilà. Donc du coup, donc oui, le jeu a clairement dépassé nos espérances. Mais du coup, on a aussi essayé d'offrir un jeu bien meilleur que ce qu'il devait être. Voilà. Et on continue à améliorer parce qu'évidemment bon il a très bien marché. Faut savoir aussi que quand tu fais un early access par contre en fait sur Steam ou dans le marché du jeu vidéo en général, t'as droit qu'à une sortie, hein, t'as qu'une cartouche. Donc ou tu réussis ton early access ou tu fais une très bonne sortie à la fin, mais tu réussis rarement les deux quoi en fait.
Ouais, donc toi c'est donc, pas simple quand même. Hein.
Donc on a quand même fait une bonne sortie, donc on sait qu'il y aura une suite à. Enfin quand je dis une suite à Northgard, il y aura pas Northgard 2, mais on va travailler sur des DLC, sur des. Voilà.
Ah des DLC. Bah tiens, tu vois, on parlait des microtransactions. Tu vois, le voile tombe. Donc comment ça se passe de ça, justement sur ça? Bisous mon Tagazou.
J'y vais, je vous laisse. Hein.
À la semaine prochaine.
C'était passionnant, mais.
Bisous Tagazou, bonne soirée.
Ah mais moi aussi je suis à fond dedans. Va falloir qu'on rende l'antenne là dans 10 petites minutes, mais moi je bois tes paroles. Je suis à fond, mais là, c'est un truc de ouf quoi. Je vais réécouter le replay 10 fois. Pas le début, mais après 20h.
Ah bah merci.
mais ouais, donc les DLC, c'est ouais. Un truc que tu penses de suite ou c'est en te disant, ah quand même, là on est là, ça marche bien. Est-ce qu'on rajouterait pas, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, être tenté d'un DLC payant pour. C'est ça que tu veux dire?
Ouais, un peu, tu vois, se dire, bon, est-ce qu'on mettrait pas une petite.
Ça, on peut le mettre maintenant, mais si on le met après, ils vont y aller et.
Alors, non, c'est vraiment le contraire. Pour le coup, tu te dis pas, non, j'ai 12 persos, je vais en sortir 10 et j'en garde 2 pour le DLC.
Oui, bon, ça.
Non, c'est pas ça. Généralement, tu prévois, par exemple, enfin, je sais pas, je dis un street par exemple, tu prévois vraiment 12 persos, t'essayes de tenir aux 12 persos, et si, tu vois, t'as une deadline pour Noël et qu'il y en a que 10 qui sont prêts, bon, bah, tu sors que les 10 et tu te débrouilles après pour faire des deux persos ou gratuits ou payants, bon c'est toi qui vois, mais tu prévois pas, voilà, il y aura tant de DLC. Nous on n'a pas, par exemple pour les DLC, on sait qu'on travaille sur des nouveaux modes de jeu, sur du contenu sympa qu'on nous a réclamé ou que nous on avait envie de mettre, mais on les a pas mis parce que faute de temps, faute de budget, faute de plein de trucs. Il y a des trucs qui seront gratuits dans, tu vois, on a des patchs avec peut-être des modes de jeu qui seront gratuits. Il y aura du contenu payant, mais parce que aussi ça demande des efforts d'une équipe. Moi par exemple, tu vois, j'ai bossé, j'ai fait toute la 3D, enfin une très grosse partie de la 3D sur Northgard. Forcément, s'il y a des DLC avec des nouveaux clans, des nouveaux bâtiments, etc. Voilà, je vais m'y remettre.
Eh oui,
et forcément, c'est du temps que je passe pas sur un autre projet. Donc, il faut que je sois bien budgété quelque part. Donc, voilà.
Ouais, non, c'est vrai, ça se tient. Et justement, quand tu parles de nouveaux projets, comment ça se passe maintenant que le jeu est sorti? Qui tourneront. Est-ce que tu penses déjà à l'avenir, au prochain jeu, ou pas du tout? Vous vous laissez un peu genre un an pour tranquille, ou ça commence déjà à se dire bon, celui-là il est cool. Est-ce qu'on partirait pas sur un autre délire?
Alors, comme je t'ai dit, en fait, quand on travaille sur un nouveau projet, on regarde la morphologie de l'équipe. L'équipe, y en a qui font de la 2D, il y en a qui font de la 3D. Je parle que pour les graphismes, mais c'est pareil pour les développeurs. Hein. T'en as qui sont spécialisés en rendu, en gameplay, etc. Ouais. Et forcément, tout le monde n'est pas occupé à 100% sur Northgard. Encore plus maintenant qu'il est sorti. Il y a une partie de l'équipe qui reste sur Northgard. Il y en a qui ont déjà commencé à travailler sur d'autres projets.
Ah ouais.
Voilà. Alors, évidemment, je ne vais pas te dire ce que c'est là.
Mais c'est bien. Mais ça veut dire que le studio a une certaine pérennité. Et
complètement. Il y a de l'ambition. Et que, voilà, même si on n'en doute pas. Mais,
Et puis voilà, vous arrêtez pas à quelque chose et que vous voyez loin. Et oui, ça, oui. C'est quand même bon signe.
Ah oui.
C'est quand même bon signe.
Complètement. On continue à recruter d'ailleurs. Voilà, si vous connaissez un développeur, on cherche activement un développeur.
Je connais un testeur si tu veux. Mais ouais, non, carrément. Carrément. Yes, bah, je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a l'émission de foot dans un instant, juste après nous. Comme vous voulez, si vous avez des questions.
Ouais, ou... Moi, je trouve que Étienne a très bien résumé son métier et puis ce qu'il peut apporter dans le monde du jeu vidéo.
Ah, mais carrément.
Et comme tu dis, c'est vraiment une fierté aujourd'hui d'avoir un studio bordelais qui proposait ça. Et moi, il a répondu à mon attente, c'est que peut-être j'aurai la surprise d'avoir un jour Evoland 1 et 2 sur console, quelle
cool,
qu'elle
hein.
soit.
C'est voilà. cool. Vraiment, parce que c'est un petit bijou ce jeu.
Ouais, c'est, moi je l'attends. Honnêtement, je dois pas être le seul, hein. Forcément, si vous le sortez pas que pour moi. Mais
ah bah, si, ils vont faire Wayne Edition.
Wayne Edition. Voilà, en collector. Ouais, c'est ça. Avec une édition boîte.
Mais
que Tagazu pourra revendre dans un an
sur
45 fois le prix.
Non, comme j'ai dit, les boîtes c'est toujours très compliqué. Mais après, il y a des deals. Hein, tu vois, par exemple, Limited Run, qui est une boîte qui fait des versions matérielles de jeux dématérialisés.
Ok, ouais.
Voilà, mais ils vendent 5000 copies par exemple. Ils font un deal à 5000 copies. Mais là, pour te dire, Northgard, si tu regardes les chiffres Steam Spy, si tu veux savoir d'ailleurs si un jeu est bien vendu, il y a Steam Spy comme site, c'est très bien, ça te permet de voir les chiffres de vente. Le nombre de joueurs connectés, etc. Sur Steam Spy, on est à, si je vais pas dire de bêtises, maintenant on était à 580 000 ventes.
Ah ouais, quand
et
même!
De Northgard, ouais. Sur Evoland, on doit pas être très. Sur toute plateforme confondue, on doit pas être très loin du million. Donc,
putain,
tu vois,
joli,
si on fait 5000 unités physiques, c'est ridicule par rapport au dématérialisé.
Par rapport au prix que
vous
ça peut coûter en plus.
Justement pour Evoland? Vous y pensez justement pour
Evoland? Oui, bien sûr, ouais, on y pense. On pense à plein de trucs. On pense au collector, on pense. Mais voilà, y penser, ça veut pas dire forcément que ce sera réalisé. C'est juste
qu'on étudie
forcément le marché.
Vous fermez pas la porte du tout à un tel projet.
Non, pas du tout. Et encore une fois, les versions physiques, c'est aussi un public que tu touches pas en dématérialisé. Hein. La grand-mère qui va acheter le jeu pour son gamin.
Les collectionneurs.
Entre autres, mais c'est vraiment, quand tu vas sur du physique, tu cherches avant tout une visibilité, quoi. Tu cherches la visibilité des rayons Micromania.
Oui, c'est ça l'idée. Voilà.
Bien sûr.
Il y a Sgrog qui nous dit « Bon, il va falloir que je regarde plus en avance Northgard, car même si je suis pas très bon en 4X, ça me tente bien, entre parenthèses, il a bien vendu. »
Merci.
C'est vrai, même moi qui suis pas joueur de stratégie, pas joueur PC, ça donne envie de découvrir.
Alors bizarrement, par contre, on a des retours comme quoi le jeu est assez dur. Mais on sait pas si c'est parce que, en fait, on a réussi à ouvrir le jeu au-delà de la niche, en fait, au-delà des joueurs de 4X. Donc c'est ces joueurs-là qui connaissent pas le style et ils trouvent ça dur, ou si le jeu est effectivement dur.
Après, la difficulté, c'est pas simple à gérer, j'imagine. Mmh. Dans un studio, ça tient un peu de choses en plus.
Mais je crois que Makos, t'y as joué toi, non? Ah non, c'était la blague.
Tu l'as réveillé, le pauvre.
Non, mais je croyais qu'il allait jouer. Non, parce qu'il joue beaucoup sur les jeux PC, donc il aurait pu donner son avis.
Mais
moi, c'est pas mon ressenti, hein, perso. Hein, la difficulté du jeu, non. Alors bon, il y a eu 2-3 hivers où la population s'est vraiment drastiquement réduite.
Ça caille, hein.
Ah ouais, c'est ça. Mais bon, les plus forts ont survécu, donc. Et non, je l'ai trouvé. Adapté, si tu veux, à quelqu'un comme moi qui connaît justement pas trop le délire, quoi.
On a essayé de faire une campagne tuto assez cool, en tout cas au moins pour accompagner les joueurs. Hein.
Ouais.
Et d'ailleurs, on est toujours en train de bosser dessus, c'est parce que le jeu est sorti que voilà, on est quand même en train de patcher parce que y a des joueurs qui ont des configs vraiment
qui voudraient jouer à Norgard sur Minitel. Donc c'est bon.
Et bah d'ailleurs, et c'est ça qui est, juste pour conclure l'émission, mais c'est ça aussi qui est pas simple et qui peut être alors facilité, c'est peut-être pas le bon terme, mais genre quand tu sors un jeu sur PlayStation, enfin sur console du moins, au moins t'as le matériel de base, tu sais que le jeu il tourne.
C'est ça.
Quand tu sors un jeu sur PC, mais tu dois te demander, mais t'as pas une config qui est pareille en fait.
C'est ça, donc bah, tu utilises des librairies, tu vois, DirectX ou WebGL, enfin OpenGL, tout ça.
Le truc qui a peut-être le plus grand nombre.
Ouais, enfin c'est surtout des librairies que t'installes facilement et que du coup ça permet de faire tourner à peu près sur n'importe quelle config. Mais après c'est vrai qu'il y a des configs un petit peu plus fantaisistes et mais on a les retours joueurs sur ces configs là, donc ça nous permet aussi des fois c'est juste une ligne de code à taper et puis bon, schématise, mais voilà.
Ouais.
C'est pas grand chose à faire et bon, quand on peut le faire, on le fait, quoi, voilà.
Yes. Bah, vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, c'est cool.
Bah écoute, non, c'était très bien.
Ouais, carrément.
Il a bien vendu le truc, honnêtement.
Merci
beaucoup.
Non, mais carrément. Chapeau. Donc c'est Northgard, mesdames, messieurs. Il est sur Steam. Il coûte combien d'ailleurs ? Une petite quinzaine d'euros ?
Non, un peu plus.
Oh mon dieu, 79.
il est à 20-21 balles, je crois.
24,
comme ça.
24, je crois.
Ah, c'est ça. Ça va, c'est pas cher. En plus, c'est pour des copains, mesdames, messieurs. C'est un studio bordelais. Mmh. Et ça, c'est cool,
ça,
en
faut
vrai.
Soutenir tout ça, ouais.
Mais carrément,
local,
hein. Carrément.
Merci.
Carrément. Et juste, tiens, pour info, c'est ça que je voulais dire. Si vous vous posez la question d'Evoland, eh ben, vous l'avez sûrement vu déjà tourner parce qu'il est souvent dans des expos.
Ouais.
J'ai remarqué. Ouais. Dès que t'as une expo de jeux vidéo, pouf, t'as une petite borne.
Oui, il était en expo à Pompidou. Il a
oui.
Été,
elle est jaune, la borne, il me semble.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et pouf, t'as Evoland. Et franchement, on vous le conseille.
Il était à Cap-Science aussi. Ouais.
Oui, exact. Carrément.
Ouais. Je l'attends sur Switch.
Il va nous en parler toute l'année. Yes. Bon, en tout cas, merci Étienne, c'était
merci
hyper intéressant, sincèrement. C'était trop bien. C'est vrai que t'étais venu il y a 3 ans, je crois.
C'est ça.
Bah nous, on est toujours là. T'as
pour parler des volants, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Donc tu vois, le temps passe, mine de rien. Bon, en tout cas, merci à toi. C'était hyper cool.
Merci à vous.
Et puis merci à vous les copains. La semaine prochaine, on parle de The Council et je vais essayer de négocier pour qu'on ait au moins peut-être même, je sais pas, une interview écrite ou je sais pas du studio. C'est Big Bad Wolf.
Ouais.
Yes, de The Conceit, parce que le jeu est très bon et j'aimerais vraiment qu'on les rencontre parce que le jeu il m'a retourné la tête en vrai. Quand tu sais en plus que c'est bordelais, c'est vachement bien. Yasgrog qui nous dit 27,99€ sur Steam, Evoland est à 9,99€ et le 2 à 19,99€. Merci Maryse.
Merci.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans la voie du geek sur Rode Radio. Hop, allez, dans un instant il y a du foot sur Rode, je suis fatigué, je suis au bout du rouleau. Allez, à la semaine prochaine, ciao.
Ciao, bye. Et bisous.
La voix du geek, l'émission 100% jeux vidéo sur Rode Radio.